C'était sur France 2.
Ah oui, sur France 2, ouais.
Salut! Salut, salut! On démarre, on est en direct. Donc, on va voir si je vais attendre de voir le retour, si ça a bien lancé. Donc voilà, là, je vois que ça part. Ça y est, c'est parti. Donc, on va attendre les premiers retours pour savoir si le son fonctionne bien. Je vais laisser mon premier invité s'introduire. Vas-y, je t'en prie.
Salut JC, ben c'est Vincent, salut à tous.
C'est dommage, il n'y a pas ta petite photo sur mon retour YouTube,
Ah.
ton boxeur en fond là. Ouais, c'est un truc blanc, c'est dommage. Dommage, dommage. C'est bizarre parce que je l'ai sur StreamYard, mais pas sur. Je vois
Ouais,
pas sur
je vois
YouTube.
sur stream. Bon.
Ouais. Donc voilà, bah écoute. Donc je suis passé sur France 2, Jules m'annonce. Donc je vais aller chercher ces images. Parce que ça y est, je suis une star. Je suis filmé sur France 2 pendant les matchs de la Coupe du Monde. Bon, on démarre à la cool ce podcast. Je vais profiter d'attendre voilà, que vous arrivez tranquillement et que vous nous fassiez votre retour pour savoir si tout fonctionne bien. Je vois que déjà Malik, il attaque sec. Il attaque sec parce qu'il a des boxeurs dont il veut qu'on parle, qui méritent pour lui qu'on les cite, qu'on les mette en miniature, en titre de vidéo, parce que voilà, c'est des boxeurs très importants pour lui qui méritent d'être cité parmi les boxeurs de l'année. Malik, ne t'en fais pas, on va en parler, on va prendre le temps de citer tous ces noms. Alors, je profite, voilà, le temps que tout le monde arrive, pour rappeler un peu, me faire un peu de pub, voilà, pub pour mes partenaires. J'ai aujourd'hui trois partenaires qui soutiennent cette chaîne YouTube, deux partenaires qui permettent de faire des stages de boxe à l'étranger, notamment Boxing Culture à New York. Je serai au prochain stage de Boxing Culture. En juin, voilà, stage en juin. Et il y a aussi des stages de Glory à Cuba. Ah, j'ai un nouvel invité qui est là, Abdel qui nous rejoint. Je l'ajoute à la discussion. Salut Abdel, comment ça va? Abdel, tu nous entends? Alors, je vais le laisser régler tranquillement son son. On l'entend pas pour l'instant. Donc, je continue ma présentation. Donc, Glory
Allô, allô?
s'organise. Ouais, ça y est, on t'entend. Ça va, Abdel? Bon,
Ah, on l'entend plus. Allô?
ouais. Du coup, je disais les stages de boxe à Cuba avec Glory. Donc, que ce soit Boxing Culture ou Glory Big Hertz, vous pouvez aussi avoir des stages à la carte. Donc, les contacter et pouvoir partir à tout moment dans l'année et rejoindre donc c'est mes deux partenaires qui vous accueillent à New York ou à La Havane. Alors, je rajoute Abdel en espérant que cette fois-ci ça marche.
Allô, est-ce qu'on m'entend?
Ouais, là on t'entend, c'est bon.
Ok, nickel.
Ça va, Abdel?
Ouais, ça va et vous?
Ça va bien, ça va
Très bien,
bien.
nickel.
Je
Salut
finis
Vincent,
juste.
salut Jean-Charles et salut à tout le monde.
Salut,
Salut Abdel.
Abdel. Merci à vous d'être là, les gars. Du coup, les aléas du direct, bien sûr, hein, comme on aime dire. Et donc, mon dernier partenaire, c'est un site qui vous permet de vous fournir en matériel de boxe et aussi de sport de combat en tout genre. Donc, tous les liens seront dans la description du podcast quand on aura terminé ce live. Voilà. Sinon, les gars, ben, tranquillement, on va s'échauffer, d'accord? On va s'échauffer et je vais rappeler le petit sondage que j'ai fait sur Box Attitude, voilà, pour prendre un petit peu la température, pour savoir bah, quels étaient les boxeurs qui ont le plus marqué les gens cette année. Et j'ai sorti quatre noms qui, pour moi, voilà, on va en débattre aujourd'hui, hein, mais qui, pour moi, quand même, ont particulièrement marqué cette année. J'ai mis Naoya Inoue, Dimitri Bivol, Jermel Charlo, Oleksandr Usyk. Ensuite, j'ai laissé la possibilité de voter pour sans opinion ou autre proposition. Et selon les noms qui ont été mis dans les commentaires, j'ai rajouté quelques noms à ma liste. Donc, au final, je me retrouve avec six noms, si je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, six boxeurs.
Okay.
Pour moi, clairement, il y a un top 3 qui est. C'est là où on va discuter, parce que je ne pense pas que c'est l'un des boxeurs qu'on va citer dans ce top 6 que vous allez me donner en numéro 1. Je pense que clairement, il y a un top 3. D'ailleurs, je les ai mis sur la miniature de cette vidéo. Mais quand même, les boxeurs qui ont été cités et que je n'avais pas cités dans mon sondage, c'était
Allô, allô?
notamment Shakur. Ouais, on t'entend, Abdel, pas de souci. C'était notamment Shakur Stevenson et Devin Haney. Donc, alors comment commencer ça tranquillement? Parmi le sondage que j'ai fait, je vais commencer avec Abdel. Est-ce que tu aurais ajouté un autre nom? Moi, j'ai mis Inoue, Bivol, Charlot, Usyk. Est-ce qu'il y en a un autre qui te serait venu?
Alors, je crois qu'Abdel, il s'est déconnecté, j'y sais. Ah, ça y est, il est de retour.
Vincent, non, mais ça alors, y est. Vincent.
Attends, mais ouais. Je crois qu'Abdel est de retour.
Abdel, tu nous entends?
Allô, allô?
Ouais, Abdel, est-ce que tu as entendu ma question ou pas? C'est compliqué, Abdel, hein, la connexion.
Je ah, pas Abdel, où tu es. Si tu nous entends, je pense, quitte StreamYard et reviens complètement, ouais. Quitte tout.
D'accord.
Ah, mais attends, mais là, on t'entend bien tout d'un
ah,
coup.
Vous m'entendez, là?
Ouais. C'est compliqué,
ah,
okay. Ouais.
Ouais, désolé, hein, j'ai des petits soucis, là, avec le micro.
Alors, écoutez, attendez, je vais en profiter pour remercier un peu les gens qui sont là. Donc, je salue Malik, qui est mort de rire parce qu'on l'a un peu vanné au démarrage. Il y a Malik qui est là, qui dit salut tout le monde. John Duff, qui est un fidèle de chez Fidèle. John Duff, ça fait combien d'années que tu suis toutes les pages de boxe? Franchement, c'est incroyable.
Il est donc, toujours il dit, là, John Duff.
C'est fou, hein, c'est fou, John Duff, c'est incroyable. Donc, il dit bonsoir tout le monde. Malik, il dit bonsoir à tout le monde aussi. Thomas, qui nous dit Abdel et Vincent, en plus, au top. Et oui, j'ai des invités pour fêter un petit peu cette fin d'année, là, avant les fêtes de fin d'année. On accueille un peu du monde, c'est cool. Ced The Bester qui nous dit salut JC, super ta chaîne Box Attitude. Gob Bob qui nous dit Inoue Bivol et Teraji sont mon top. Ah, tiens, tiens, il nous ajoute un autre boxeur. Ouais, 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 c'est vrai, tu m'en avais parlé en plus, Vincent.
Non, mais chic, j'y avais pas pensé, mais là, je l'ai vu en com, effectivement, on va en reparler, c'est pas con du tout comme nom d'avoir cité ce nom, ouais.
Ok, ok. Et ben alors, vas-y, maintenant, je relance ma question. Abdel, est-ce que tu as entendu la question?
Non, j'ai pas entendu la question, désolé.
Alors, non, il n'y a pas de souci. J'ai cité les quatre noms que j'avais ressortis pour le sondage, en laissant la possibilité d'ajouter des noms. Et est-ce que toi, quand tu entends ces quatre noms, est-ce que tu aurais envie d'en rajouter un? Comme par exemple, on nous rajoute Kenshiro Teraji. Est-ce que toi, il y a d'autres noms qui te viennent à l'esprit, qui ont marqué l'année?
Moi, personnellement, tu sais, comme je t'avais dit, quand on en avait parlé entre nous, moi, j'aimerais bien aussi mettre Devin Haney.
Ouais, alors j'ai dit que je l'avais rajouté. Ça a peut-être dû bugger à ce moment-là.
Ah,
j'ai dit que j'ai rajouté. Du coup, en tout, j'ai six noms. Donc, les quatre que j'ai mis, et j'ai rajouté Shakur Stevenson et Devin Haney, qui avait été rajouté justement par Malik. Et je pense que si je le dis pas, il va vraiment s'énerver dans les commentaires et je commence à avoir un peu peur de Malik.
Bah, c'est exactement les deux noms auxquels je pensais en plus.
Ok, ok. Bah écoutez, on va en débattre. Ça va être le début un peu de notre discussion. Vincent, est-ce que toi, à part Teraji, parce que tu as suivi les commentaires, hein, je suis sûr que tu n'avais même pas pensé en vrai.
Ah non, mais c'est vrai. En plus, c'est vrai. Je n'avais vraiment pas pensé à celui-là. Ouais.
Est-ce que tu aurais ajouté quelqu'un d'autre?
Non, là, je pense quand même qu'on a fait le tour des noms qui étaient vraiment qui pouvaient être nominés cette année.
Alors, moi, j'ai reçu un mail de dernière minute d'un certain Eddy qui me dit qu'il faudrait parler de Canelo. Alors, voilà, on me souffle ça dans l'oreillette. Eddy qui me dit de parler de Canelo et que je
Mais lequel, Eddy? Reynoso ou Hearn?
Ah, c'est vrai que c'est un. Je vois que c'est double, une double signature.
Ah, voilà.
Alors commençons. Si on commençait par Teraji, parce que je pense que il y a pas grand monde qui le connaît forcément sur en ce moment sur ce live, et ça serait pas mal de commencer par un japonais. Pourquoi pas de finir par un japonais? Je dis ça, je dis rien. Kenshiro Teraji. Alors, qui veut en dire un mot?
Bah écoute, je vais bien me lancer.
Allez.
Ben Kenshiro Teraji, effectivement, moi je le connaissais pas énormément. Je me suis vraiment intéressé à lui quand il y a eu ce fameux gros combat face à Kyoguchi, et j'ai revu un peu sa carrière. Et c'est vrai que c'est un mec bon qui était champion du monde des poids mi-mouches et qui avait subi qu'une seule défaite dans sa carrière. C'était l'an dernier, c'était en septembre dernier, c'était face à un certain Yabuki, un japonais aussi. Et il avait perdu par KO technique à la 10e reprise. Et là, en ce début d'année, il y a un combat revanche avec Yabuki, et il va le mettre KO au 3e round. Donc déjà, il venge une défaite de la plus belle des façons, j'ai envie de te dire, quoi. Et après ça, il va vers une unification face à Hiroto Kyoguchi, qui est invaincu, qui est considéré comme le taulier de cette division des mimouches. C'est un combat au Japon, dans l'ambiance japonaise et tout, entre deux japonais. Et alors que Kyoguchi était quand même donné favori, ben, Teraji, il va complètement surclasser Kyoguchi et lui passer le KO. Donc, c'est vrai que c'est quand même deux grosses performances et une sacrée année pour lui. Il unifie deux ceintures. Il venge sa seule défaite et il bat l'un des meilleurs boxeurs japonais au monde.
Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des combats de l'année aussi contre Kyoguchi?
Moi, je te dirais cinquième round, round de l'année, combat de l'année. J'ai un peu du mal parce que, hormis ce cinquième round qui était disputé, faut reconnaître que ça a été un beau combat agréable à voir, mais Teraji, il a complètement dominé les débats quand même.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, je te l'accorde. C'est vrai que ça fait une belle année. Il prend sa revanche, il récupère le titre WBC et ensuite, derrière, il fait une unification. Il gagne ce combat par KO. C'est vrai que, clairement, il méritait qu'on en parle ce soir. Est-ce que ça mérite le titre de boxeur de l'année, selon vous, Abdel? Tu votes?
Boxeur de l'année, je pense que peut-être c'est un peu fort. Mais c'est vrai que c'est des catégories qui malheureusement sont pas très regardées c'est vrai que voilà c'est un boxeur je pense que même la plupart enfin des gens qui suivent la boxe ne regardent enfin ne connaissent pas le nom ne le regardent pas forcément c'est vrai que voilà son combat son enfin son dernier combat là qu'il avait gagné il était pas donné favori et ouais ça a été un super combat et comme Vincent il a dit le cinquième round c'était vraiment un super round moi personnellement je trouve que voilà le mettre en tant que boxeur de l'année je trouve que c'est un peu trop. Mais c'est sûr que c'est un sacré boxeur et malheureusement ces catégories là il y a peu d'intérêt dessus et c'est surtout l'intérêt elle est surtout plutôt c'est plutôt en Asie que ça va être regardé parce que c'est des catégories où enfin c'est surtout des champions asiatiques mais en dehors de enfin ça traverse pas l'Asie, c'est ça que je veux dire.
Ouais, c'est vrai, ça reste un peu dans un cercle fermé, je suis d'accord avec toi. Alors juste on demande dans les commentaires, c'est bien la catégorie des mimouches. Donc, c'est moins de 49 kilos. C'est exactement 48,988. On va arrondir à 49 kilos. Hein, d'accord, on n'est pas à quelques plumes près. Donc, voilà, c'est vrai que c'est la deuxième plus petite catégorie. En dessous, tu as les pailles. Donc, c'est vrai que c'est pas trop regardé. Vincent, à toi de voter.
C'est-à-dire à moi de voter pour
Est-ce que tu penses qu'il mérite titre de combattant de l'année, boxeur de l'année?
Non, il a des arguments. Après, au vu de d'autres combattants qu'on va évoquer, je pense quand même que c'est peut-être un peu court, même si c'est vrai que, comme l'a souligné Abdel, c'est des catégories qu'on, forcément, même quand on est un grand fan de boxe, on a tendance naturellement à négliger. Peut-être que si cet exploit avait été fait dans une catégorie plus lourde, on en parlerait autrement. Mais bon, c'est clair que, étant donné qu'en fait, le titre de boxeur de l'année, si tu regardes historiquement, c'est Ring Magazine. Et c'est vrai que si tu regardes l'histoire des boxeurs de l'année, il y a aussi, outre la performance, une part symbolique, une part de retentissement. C'est-à-dire le boxeur de l'année, c'est le boxeur qui marque l'année aussi médiatiquement. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est un peu triste pour les petites catés parce qu'ils sont parfois un petit peu condamnés. Mais c'est vrai qu'il faut en tenir compte aussi. Teraji, comme l'a dit Abdel, ça passe pas les frontières, hélas.
Alors, en vous entendant, ce que je me dis, c'est que ça fait quand même partie des révélations de cette année. On n'en aurait pas parlé s'il avait pas fait ces deux combats. Moi, je vais dire ce qui lui manque peut-être, parce que vous avez donné des bons arguments on pourrait dire, bah, du coup, il mériterait le titre. C'est vrai que deux ceintures, aujourd'hui, dans une ère où justement, on va en parler, on est dans une ère où on réunifie les quatre, fait peut-être un peu léger.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, on n'aurait jamais dit ça, il y a encore quelques années, mais là, oui.
Mais là, pour le coup, ça va peser dans la balance parce qu'il y en a, beaucoup qui ont fait les quatre ceintures. Donc, ça va peser dans la balance.
Ouais, tout à fait.
Ok, écoutez, très bien. On clôt. Donc, c'était sympa. On a eu un septième nom qui a été donné par les abonnés. Comme quoi, il y a de la qualité là dans le chat. C'est cool. Donc, on va aller voir maintenant les choix de Malik. Hein. Je suis obligé de préciser. Il m'a envoyé un mail aussi, comme il dit, de menace. Donc, choix de Malik, Shakur Stevenson. Ah, je déconne, il y avait Abdel aussi qui nous a cité. Alors, Shakur Stevenson, c'est intéressant parce que ça fait un moment que Shakur Stevenson, on parle de lui, contrairement à Teraji le japonais, où on en parle aujourd'hui, on en parlait très peu avant, il faut quand même bien le dire. Ça fait un moment que Shakur, il fait partie des noms de la boxe qu'on cite, on veut le voir contre un tel ou un tel. Voilà, il fait partie quand même des petites terreurs de la boxe. D'ailleurs, sa montée en poids, elle est très attendue. Qu'est-ce que vous pensez de son année? Alors, je rappelle rapidement, il était champion des poids plumes, il avait unifié contre Oscar Valdez, très beau combat. Derrière, il était censé défendre ses titres contre Conceição. il n'a pas fait le poids. Donc, de toute façon, peu importe le résultat, il n'aurait pas pu valider cette défense de titre. Il gagne le combat et derrière, il annonce qu'il va monter de catégorie. Alors, qui veut commencer pour parler de Shakur Stevenson?
Bah ouais, ok, bon, bah, je vais commencer. Ouais, Shakur Stevenson, bon déjà, je pense que l'année qu'il a faite, le combat qu'il a fait face à Valdez, c'était un super combat. C'était un combat qui était attendu. Et je pense que sportivement, enfin en termes de pure boxe, quand tu regardes Shakur Stevenson, tu vois qu'il y a quelque chose et que, enfin, moi, je suis sûr que dans les années à venir, ça va être un grand nom de la boxe. Enfin, c'est déjà quand même un nom oui. de la boxe, mais
c'est Jane Star, ouais, c'est Jane Star.
Ouais, c'est Jane Star, mais là, ça, enfin, quand on a vu sa boxe, la maturité qu'il a au niveau de sa boxe, je pense que franchement, dans les années à venir, ça va vraiment faire mal. Et voilà, moi cette année. C'est pas, enfin, au niveau de Shakur Stevenson, c'est surtout au niveau de la boxe, en fait. Pour moi, ça a été une, il a montré que, en fait, au niveau de sa boxe, on pouvait compter sur lui, et même s'il montait de KT, je pense que, voilà, il y en a peu qui seraient capables de le battre, malgré qu'il veut monter dans une catégorie où il y a quand même pas mal d'adversaires et
pas mal
de très bons boxeurs.
Alors juste, je rajoute, après je laisse la parole à Vincent, j'ai une petite réflexion qui m'est venue pendant que tu parlais. Si on compare, il a 25 ans, il est dans la même génération que Teofimo Lopez, et je trouve que lui, contrairement à Teofimo Lopez, il ne cesse de confirmer son statut. Plus les combats ouais. avancent, plus je trouve qu'il se bonifie dans sa boxe, dans sa maturité sur le ring. Donc voilà, je trouve que vraiment il est très intéressant. Et juste, je me permets aussi un petit truc, après je donne la parole à Vincent. Je pense quand même que le manque de professionnalisme en ayant loupé la pesée, c'est une petite tâche pour voter pour lui. Je donne la parole à Vincent Mann.
Ouais, bah écoutez, vous avez donné de très bons arguments. Effectivement, boxeur exceptionnel, Shakur Stevenson, je pense que c'est le futur de la boxe dans cette génération de jeunes. Pour moi, c'est celui qui me paraît le plus accompli. Disons que là, on est ici pour parler du boxeur d'année, donc on va aussi chercher dans les détails. Donc on va un petit peu pinailler aussi. Shakur Stevenson, effectivement, il arrive face à Oscar Valdez. C'est un gros combat, une grosse affiche attendue. On voit très rapidement qu'il y a un gros avantage, bon, technique, ça c'est clair, le talent de Stevenson, et physique aussi. Sur le ring, t'avais un super léger, je pense, face à un plume quasiment. Et ce qu'on a dit à l'époque, et rappelle-toi, j'y sais, je m'en souviens, c'était dans ta vidéo réaction, c'est que c'est très très beau, c'est parfait, mais on avait l'impression qu'il aurait pu mettre ce petit plus pour aller vraiment chercher une victoire par KO. C'est pour ça que quand il y en a qui l'ont comparé beaucoup à Floyd Mayweather dans ces années-là, regardez Floyd Mayweather quand il affronte Corrales, je trouve qu'il met ce truc en plus, Floyd Mayweather. Alors attention, une fois encore, je rappelle que je pinaille un peu là, on est dans les détails du coup. Et après, comme tu l'as précisé, JC sur Contessao, moi c'est vrai que je trouve quand même que c'est un petit peu une erreur, un manque de professionnalisme clair d'arriver comme ça, trop lourd, en mode, en fait, je m'en fous, je sais que de toute façon, j'ai changé de catégorie, donc je fais le combat comme ça. Et le combat qu'il fait, il est ultra dominant, mais j'ai pas trouvé que c'était sa performance la plus inspirée non plus, tu vois. Donc une fois encore, je vous le répète, je suis dans les détails, je pinaille, parce que là, on est sur le débat le boxeur de l'année, donc on va vraiment aller chercher un peu à titiller, à creuser partout. Mais en soi, qu'il soit nominé, c'est clair que oui, tu peux pas l'omettre chaque cours, mais je pense que pour ces raisons-là, je pense que d'autres boxeurs en fait ont plus d'arguments, quoi.
Alors ça tombe bien ton détail, parce que moi c'est un détail qui va avoir son importance dans mon choix du boxeur de l'année. Donc je suis très content que tu aies dit justement ce point-là. Je le trouve très important. Et je vais quand même dire que le manque de professionnalisme, j'en discutais avec mon ami Thomas avant, et c'est lui qui m'a mis ça dans la tête en me disant ouais, c'est vrai que de pas avoir fait le poids quand on désigne le boxeur de l'année. Pour moi, ça compte quand même. Ça compte. Donc, ouais. On vote. Allez, Abdel commence. Vote. Oui, non, boxeur de l'année.
Non. Moi, pour moi, ce ne serait pas le boxeur de l'année, mais bon, c'est vrai que.
Ok. Vincent voilà.
Non, non plus, ouais.
J'avance parce que je sens qu'après, pour le trio de tête, on va s'écharper. Donc, donc, j'ai vu dans les commentaires que quelqu'un disait que Shakur était favori contre Devin Haney. On ne va pas répondre à ça aujourd'hui, mais ça me fait une belle transition. On en reparlera, ça, les gars, on en reparlera. On pourra faire un débat là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais donc, passons à Devin Haney. Devin Haney. Alors, Devin Haney, il a 24 ans. Il est tout jeune. Hein. Il est tout jeune. Et cette année, c'est deux combats. Le premier contre Kambosos. Donc, les deux sont contre Kambosos, mais c'est son combat un peu de la confirmation. Il doit aller chercher les titres contre Kambosos. Alors, cette Kambosos, c'est un peu le boxeur qu'on n'attendait pas là. C'est-à-dire que il y a encore un an, quand on parlait de cette catégorie, on citait des noms, on citait des combats qu'on voulait voir. On n'avait pas en tête Kambosos. Tu vois, il n'était pas dans les calculs. Et il est venu un peu à la Andy Ruiz, gâcher la fête, entre guillemets. Mais il a tenu son rôle, contrairement à Andy Ruiz, c'est-à-dire que ben, il a fait ses combats, Kambosos, il a fait de son mieux face à des boxeurs très talentueux. Donc, il va récupérer les ceintures, il va les chercher à l'étranger, chez Kambosos. Je pense que c'est important à signaler. Et puis derrière, il a cette obligation de faire la revanche et il va confirmer. Alors, pour moi, et je sais, vous allez me dire ce que vous en pensez, pour moi, il n'y a aucune surprise dans le deuxième combat. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que Devin Haney surclasse Kambosos. Je n'arrivais pas à imaginer que Kambosos puisse proposer autre chose. Et c'est ce qu'il a fait. Il gagne avec une certaine classe, une certaine grandeur. Qu'est-ce que vous pensez de l'année de Devin Haney, qui est donc l'un des champions unifié, undisputed. Donc il y a toutes les ceintures, IBF, WBA, WBC, WBO. Qui commence? Vincent, Abdel?
Allô?
Ouais, Abdel, tu veux commencer? Ou est-ce qu'Abdel, on t'a perdu? Vincent, vas-y, je t'en prie, commence, Vincent.
Ouais, bah
Allô,
écoute.
allô?
Ah,
Ah,
mais ça y est,
désolé.
on a retrouvé Abdel.
Oui,
Non,
désolé.
mais vas-y, vas-y, Abdel, vas-y.
Non, bah vas-y, Vincent, hein, vas-y.
Non, bah écoute, Devin Haney, en fait, c'est un peu, je dirais, le bon employé cette année. C'est-à-dire qu'il fait, il va chercher ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il va chercher le mec qui a les ceintures, Kambosos. Et il va en Australie pour les chercher. Donc, effectivement, c'est quand même à souligner. Et il fait, sur le ring, là encore, j'ai envie de dire le bon employé. C'est-à-dire qu'il fait sa boxe sans prendre trop de risques. Il voit que ça marche, il reste dans une zone de confort. Il est largement supérieur à Kambosos. C'est ce qu'on redoutait déjà avant le premier combat. On l'avait favori. Et effectivement, au deuxième, il a confirmé. Donc, en soi, t'as pas vraiment de reproche à faire à Devin Haney. Mais il va manquer, effectivement, ce petit truc. C'est vrai que, ben voilà, Kambosos, on s'est vite aperçu. On avait vite anticipé, même. Je sais que toi, t'en avais régulièrement parlé dans tes vidéos, j'y sais. Que c'était limité et qu'on avait conscience qu'il avait réussi un gros coup face à Lopez. Après, une fois encore, tu peux pas reprocher à Haney de le prendre deux fois puisque c'était contractuel. Il avait vraiment pas le choix de le faire. Mais c'est vrai que voilà, il a manqué ce petit plus, ce quelque chose, cette électricité chez Devin Haney cette année. C'est pas des événements d'ailleurs qui ont été très vendus à Haney Kambosos et on a vu, ça a pas beaucoup marché, ça a pas vraiment intéressé le public si tu veux. Donc ouais, c'est quand même te dire, si tu veux, tu peux pas dire que c'est mal fait, mais c'est terne quoi, ça a pas vraiment de saveur, je dirais.
Et juste Vincent, après je donne la parole à Abdel. Le fait que ce soit un Américain qui sort de sa zone de confort, aller en Australie, est-ce que ça a pu jouer sur sa performance ou pas?
Sur le premier combat, pourquoi pas? Sur le deuxième, je pense pas. Puis
Ok.
au bout d'un moment, il était tellement au-dessus qu'à mon avis. J'ai pas l'impression que ça aurait pu vraiment jouer, tu vois.
Je cite juste Noblard dans les commentaires avant que je l'oublie. Il nous dit, donc il nous dit, ben. Il nous salue tous et il nous souhaite la paix et il nous dit, c'est le boxeur de l'année. Elle est sympa, elle est sympa. Abdel, à toi.
Ouais. Alors, Devin Haney, pour moi, sportivement, il est très fort, surtout sur, enfin. Sur ces deux combats et le combat revanche, j'ai vraiment apprécié de voir le boxeur, de voir voilà toute la panel technique qu'il peut apporter. Donc en termes de boxe, j'ai envie de dire que oui, ça peut il peut être le boxeur de l'année. Sauf que bon, il a pris toutes les ceintures, mais les ceintures, il les a pris face à un seul adversaire. Donc il est venu un petit peu au bon moment, il prend le gars et récupère toutes les ceintures. Donc c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est différent du gars qui est champion et qui va chasser un petit peu les ceintures une par une et qui fait l'unification. Là,
Ouais, c'est vrai. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bon argument.
t'arrives au bon moment, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je serais pas pour le mettre boxeur de l'année. Mais c'est vrai que oui, en termes de boxe, il est très très fort une
Oui.
année pareil c'est comme enfin je pense que lui et Shakur Stevenson dans les années à venir ça va être les gars qui vont qui vont dominer la boxe.
Ouais, je suis d'accord, c'est des bons arguments. Il y a Joe qui nous a rejoint. Salut Joe.
Salut les gars, vous m'entendez?
Ouais, on t'entend bien, on t'entend bien.
Salut.
Salut, salut.
Alors.
Vidéo pour l'année 2022, j'ai mis la photo qui résume l'année.
T'aurais dû mettre celle où ils sont vieux. Est-ce que tu as un peu de temps, Joe, ou pas, pour rester avec
ouais,
nous?
Ouais, j'ai 5-10 minutes.
T'as 5-10 minutes? Alors, comme t'as 5-10 minutes, on va te laisser dire et argumenter sur ton boxeur de l'année, même si on va sûrement l'aborder un peu plus tard, parce que là, je suis en train de remonter doucement. Je vais te laisser développer, donner tes arguments, comme ça, si tu nous quittes au bout de 5 minutes, au moins, tu auras donné tes arguments sur ton boxeur de l'année. D'accord?
Ok, ça marche pas. Déjà, j'ai
juste,
pas
juste,
suivi ce que
attends,
vous avez dit depuis le
excuse-moi,
début.
on est sur Devin Haney. Alors, on a fait, mince, j'ai oublié son nom au japonais. Teji?
Kenshiro Teraji.
Kenshiro Teraji.
Kenshiro Teraji, ouais.
Ouais, Kenshiro Teraji. On a parlé de Kenshiro Teraji. On a parlé de Shakur Stevenson. On était à Devin Haney. Devin Haney, selon toi, Joe, mérite-t-il le titre de boxeur de l'année? Oui ou non?
Pas du tout.
Ok. Je pense qu'on est tous d'accord.
Ouais,
Franchement,
non,
pas
moi,
du tout
pour moi,
parce
c'est trop
que
court. ouais, c'est trop court. Il prend les titres contre un mec bah, qui était sorti un peu de nulle part. En plus, il fait une revanche qui a servi à rien. Et dans la revanche, bah, il a été bon, hein. Il a dominé tout le combat, mais c'est pas. Enfin, il a pas fait un combat qu'on va re-regarder, quoi.
Ouais.
Ouais, bah voilà, je pense qu'il a bien résumé le truc. C'est cette revanche n'a servi à rien. Et je rajouterais même qu'il a, pour moi, ce qu'il a manqué dans la revanche, il a manqué de panache. Ce panache des
Exactement.
grands champions. C'est-à-dire qu'il surclasse son adversaire, il n'y a rien à dire. On voit que Kambosos, il est sans solution. Au fil des rounds, il est vraiment. Et c'est même triste à voir parce que Kambosos, c'est un guerrier dans l'âme, il aime la bagarre. Et en fait, on ne lui donne pas le combat qu'il peut avoir, il ne peut pas aller à la bagarre. Et je trouve que Devin Haney, quand tu surclasses comme ça un boxeur sur 24 rounds, que tu n'es pas le panache en faire un petit peu plus, pour moi, c'est ce qu'il a manqué. Après, comment lui reprocher? Il s'est assuré la victoire, maintenant il a les quatre ceintures et on va voir ce qu'il va faire dans une défense de titre. C'est un peu dur de le reprocher, mais du coup, là, on parle du boxeur de l'année. Donc, c'est des arguments qui font qu'on ne peut pas lui donner. Je vais laisser la parole à Joe si vous voulez bien, comme ça on enchaîne, et il va nous donner ses arguments sur son boxeur de l'année.
Alors, pour moi, c'est Bivol. J'hésitais entre Bivol, Usyk et Inoue. Mais si je mets Bivol, c'est parce que Bivol, il a fait deux combats, deux victoires, une contre Canelo et une contre Zordo. Et j'hésite avec Inoue. Et du coup, j'ai fait un comparatif de qui ils ont boxé. Pour moi, Inoue, il boxe Donner. Bon, ok, Donner, c'est une légende, mais une légende qui est plus proche de la retraite que des débuts. On compare avec Bivol. Bivol, il a battu Canelo. Le deuxième combat, Inoue, il bat Butler. Et Bivol, il bat Zordo. Zordo qui avait un palmarès de 48 ou 49-0 ou 42, je ne sais plus. Enfin bref, zéro défaite. Donc si on prend les adversaires, pour moi, la plus belle année, c'est Bivol. Et en plus, le truc qui fait que c'est le boxeur de l'année, c'est qu'il bat Canelo. Canelo, c'est le visage de la boxe. Et en plus de ça, on était tous partis, enfin moi pour ma part, on était tous partis dans un délire avec Canelo que personne ne pouvait l'arrêter, quoi. On le voyait, on parlait de lui contre Usyk, en Bridgerweight, on le voyait chez les mi-lourds, même chez les Cruiserweight. Et en fait, il a mis fin au délire et il a rappelé que dans la boxe, il y a des catégories et que c'est pas pour rien, quoi. Donc pour moi, en fait, pour moi, on ne peut pas
Alors,
mettre un autre boxeur que lui.
j'ai vraiment envie de lancer le débat sur Bivol, mais comme j'aimerais rester dans l'ordre un peu de ce qu'on fait et qu'il ne faut pas qu'on squeeze Jermell Charlo, parce que je pense qu'une fois qu'on va partir sur le trio de tête, c'est là qu'on a le plus de choses à dire. Donc je vais garder tes arguments dans un coin de la tête. Je demande à tout le monde de les garder, parce que c'est des bons arguments, mais j'ai envie de débattre. Mais avant ça, on va faire un petit mot sur Jermell Charlo, parce que vraiment, il va être le grand oublié de cette fin d'année, c'est sûr.
Ouais.
Et pourtant, il fait quelque chose de fort. Et là, on va comparer à Devin Haney. On va comparer à Devin Haney. Et il va chercher l'unification contre Castagno. Donc, un boxeur emmerdant, on le sait. Nous, les Français, on sait très bien que c'est un boxeur très emmerdant. Et ce que j'aime dans le parcours de Jermell Charlo, c'est que lui, il a fait ce que tu disais, Abdel, tout à l'heure, aller chercher les ceintures les unes après les autres, aller faire les combats qu'on veut voir dans la catégorie. Si on regarde cette catégorie, c'est là où on a eu les plus belles oppositions. Quand tu compares à toutes les autres catégories, là, ils nous ont donné les combats, les meilleurs qui s'affrontent et des super combats. Et c'est quand même à mettre à l'honneur de Jermell Charlo qui va faire ce combat revanche. Donc un combat. Tiens, vous avez pensé quoi du premier combat, vous? Qui veut commencer?
Comme vous voulez. Bah, du coup, je vais commencer.
Allez,
Pour moi,
vas-y, Joe.
Pour moi, le premier combat, je vois Castagno gagnant.
Ok.
Et au deuxième combat, en fait, il fait tous les ajustements nécessaires et puis et il gagne sans appel. Sans appel. Mais après, c'est dommage qu'il a fait qu'un combat en 2022.
C'est ça. C'est pour ça que je dis que ça va être le grand oublié. Clairement, on ne peut pas le désigner boxeur de l'année, mais on ne peut pas ne pas en parler non plus. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Alors, vas-y, Vincent, je te laisse réagir sur. Déjà, le premier combat, tu étais ressorti avec quelle impression ?
Alors, le premier combat, j'étais ressorti pareil que Joe, c'est-à-dire vraiment, j'avais plus vu Castagno l'emporter. Deuxième, Charlot qui fait les ajustements, rien à dire, il unifie toutes les ceintures, il bat, c'est le premier à battre Castagno. Donc, ouais, très belle performance. Une fois encore, après, le problème, c'est, on l'a dit, inactivité. Comme beaucoup de boxeurs PBC, en fait, c'est que. Moi, je veux bien au bout d'un moment, mais le mec, il est encore jeune, il est même il est dans son prime, je pense, Charlot. Il n'y a qu'un combat cette année. Non, c'est pas possible. Tu peux pas être boxeur de l'année avec ça, quoi.
Ouais, prime, comme tu as dit, PBC.
Non, je disais juste, prime, 32 ans, tu commences même à t'en éloigner un peu du prime. Donc, c'est vrai qu'il faut se bouger. Hein.
Ah, mais c'est le moment. C'est le moment ou jamais, quoi. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'était cette année qu'il aurait dû être le plus actif.
Absolument. Joe, tu voulais réagir ?
Ouais, sur ce qu'il a dit sur PBC, moi, franchement, je trouve ça désolant parce qu'il ruine des carrières parce qu'il les emmène tout en haut. Mais les faire boxer qu'une fois par an, un mec comme Ennis, il a boxé une fois, il a fait un round.
C'est abusé. Après, par contre, Jermell Charlot, là, il va prendre Tim Tzu dès le début de l'année. Ça rattrape un peu de votre frustration ou pas ?
Non, parce que moi, je crois que ça sera son seul combat, en fait, cette année encore. Hein.
Ouais, franchement, il y a moyen.
C'est pas la question que je vous ai posée. Est-ce que l'affiche rattrape un peu votre frustration ?
Ça va être un beau combat, ouais.
Ça va être sympa, ouais.
Abdel,
il aurait pu le faire en décembre, tu vois.
Ouais. Vous m'entendez ?
Ouais, vas-y.
Ouais, comme ça a été cité avant, c'est vrai que le premier combat, Charlot Castagno, beaucoup voyaient Castagno gagner. Et sur le deuxième combat, sur le combat revanche, là, il n'y a pas de débat possible. Donc oui, c'est vrai que le fait d'avoir unifié les ceintures, ça fait que ça peut être, il est légitime sur ce débat de est-ce que il peut être boxeur de l'année, mais clairement, en fait, le manque d'activité, pour moi, je pense que c'est clair que en fait, ça l'enlève tout de suite du top, quoi. Par exemple, du top 3. Mmh. Parce que, voilà, faire qu'un seul combat en 2022, c'est trop peu. C'est trop peu.
Mmh. Alors, dans les commentaires, ça confirme vraiment, les gens sont d'accord avec vous. Je voulais juste reprendre une remarque de Malik qui parle de l'intelligence de Jermell Charlot. Justement, je voudrais faire un petit retour sur ça parce que je trouve que les frères Charlot, leur intelligence du ring, c'est pas vraiment ce qui saute aux yeux chez eux. On va pas se mentir. Mais par contre, le Jermell, et pourtant, moi, je préférais Jermall à la base, je trouve que Jermell, c'est l'un des boxeurs du circuit qu'on a vu le plus évoluer au fil des combats.
Ouais, c'est vrai.
Donc, il méritait cet hommage, il méritait qu'on parle de lui, surtout que moi, j'ai beaucoup apprécié ce combat-là, c'est l'un des combats que j'ai préféré, mais clairement, boxeur de l'année, je pense qu'on est unanime, c'est non.
Oui, non, c'est pas possible, c'est trop court.
Bon, les gars, on attaque le trio de tête. À moins que vous ayez un nom qui vous soit revenu.
Alors, il y a un nom.
Dans l'ordre des catégories, du coup.
Non, c'est pas l'ordre des catégories, c'est un peu les boxeurs qu'on les plus marquants. Et tu vois, on monte petit à petit.
Ok.
Ah, moi, j'ai un nom en plus, si tu veux, Jean-Charles.
Ouais, vas-y.
Jake Paul.
Non, alors par contre, sans déconner, les gars, je crois qu'on l'a. Il était assez évident, mais je crois qu'on l'a pas cité Jesse Rodriguez, non?
Ouais. Oui, allez, on peut en parler. Allez, tu veux commencer, Vincent ?
Ouais, je vois que dans les coms en plus, on vient d'en parler, cité, effectivement. Ouais. Voilà.
Quand on a dit révélation de l'année, les gens l'ont cité en disant c'est peut-être lui la révélation de l'année.
Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord.
Je suis plus sur ça, mais vas-y, je t'en prie.
Parce que il débarque un peu, c'est-à-dire qu'à la base, on devait avoir un combat entre Carlos Cuadras et Sorung Visai chez les Supermouches. Mmh. Qui est la catégorie, clairement la plus relevée aujourd'hui, surtout que les mecs qui s'affrontent, quoi. Et lui, il débarque, il prend en fait Cuadras parce que Sorung Visai est blessé. Il bat Cuadras, donc on dit, belle performance, même si Cuadras, il est plus tout jeune. Après, face à Sorong Guizai, on sait pareil qu'il est plutôt jeune, mais on se dit, eh, ça tape encore. C'est quand même le mec qui a mis KO Chocolatito, il va lui mettre une leçon de boxe. Et après ça, il y a quand même un troisième combat qui arrive en sous-carte de Canelo Golovkin, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc, ouais, en sous-carte d'un gros événement, c'est un beau combat qui est assez dur, mais qui remporte. Donc, ouais, tu peux te dire, c'est quand même une très très belle année qu'il fait. Bon, le problème, c'est qu'en fait, là où il a pas de bol, c'est qu'il est dans une catégorie de fous furieux et qu'en fait, les mecs qu'il prend, même si c'est des gros noms, ben, c'est pas les meilleurs, en fait. Et il y a un move, je sais qu'il y a beaucoup déplu aux Américains, c'est qu'il a choisi de descendre de KT, d'aller chez les mouches. Il y en a beaucoup qui ont reproché d'éviter clairement, en fait, Estrada et Chocolatito. Mmh. Et c'est vrai que ça fait, c'est un peu très, très dur à dire, mais ça lui fait un petit truc, tu vois, comme ça, ouais. Alors après, voilà, en termes de retentissement, bah, une fois encore, on est dans des petites KT, donc c'est très dur pour le grand public. Mais c'est vrai qu'il fait quand même une super année 2022, ouais.
Après, à 22 ans, quand tu tapes deux anciens noms comme Cuadras et Wangek, tu finis avec un combat contre Gonzalez, est-ce qu'on ne peut pas t'accorder un petit pas de retrait pour te dire, hey, je vais pas tout de suite aller me mettre au charbon?
C'est pour ça que je suis, c'est dur à dire et qu'une fois encore, je suis dans les détails un peu parce qu'on parle du boxeur de l'année. Mais bien évidemment que c'est extraordinaire ce qu'il nous a fait cette année.
C'est Team Reynoso, ça? Non.
Non, non, pas du tout, non, non.
C'est quoi? C'est les...
Garcia, je crois que c'est les Garcia, ouais, si j'ai pas de
Garcia.
Bêtises,
hein. Ouais, je crois que c'est plus une boxe style Garcia, ça. Les gars, vous avez une petite remarque sur lui à faire ou pas, Joe ou Abdel?
Ouais. Bah, franchement, moi, je pense que honnêtement, s'il était dans une autre KT, si c'était, je sais pas moi, un 63,5 ou un poids moyen ou peu importe, et qu'il avait fait cette même performance, bah, le gars, tout de suite. Il aurait été, enfin, il y aurait eu les lumières sur lui parce que c'est quand même une sacrée performance ce qu'il fait. Mais après voilà, comme ça a été dit, le fait de descendre de KT, c'est vrai que moi j'ai pas trop compris le pourquoi du comment. Et voilà, et faire ça à son âge, c'est à 22 ans battre deux anciens gros champions. Enfin, c'est très très fort. Donc, ouais, c'est vrai que ça pourrait mériter aussi le titre, enfin, de boxeur de. Ouais, révélation de l'année, c'est mieux. Je pense que révélation de l'année,
ça lui va mieux.
Ouais. Clairement.
Et puis, je reprends un argument que je donnais tout à l'heure. Lui, il a pris qu'une ceinture. Et on est dans une année où on va plus privilégier des boxeurs qui vont chercher 2, 3, voire 4 ceintures.
Oui, mais.
Ouais.
Vaut mieux. Enfin, comment dire, les ceintures, c'est très bien. Mais les noms, c'est mieux quand même.
Vrai, je suis totalement d'accord avec Abdel. Je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que l'opposition prévaut sur les ceintures quand même.
Ouais, je suis d'accord. Et en ce moment, on est dans une génération où on voit que par les ceintures plutôt que les noms.
Ouais.
Et ça serait bien que ça change un peu. Et après, moi, j'ai pas trop à dire sur ce boxeur parce que bah, passer après Vincent, c'est chaud hein, quand il te fait un résumé d'un mec. et Abdel, il a tout résumé. Hein, les boxeurs qui sont dans les très petites catégories, ils manquent de visibilité. Et ça leur dessert, en fait.
Ok, les gars. Bon, ben, du coup, plutôt révélation de l'année pour Jesse Rodriguez. Et clairement, je pense que ça va être dur de lui enlever peut-être le prospect de l'année.
Est-ce qu'il n'a pas dépassé le stade de prospect, honnêtement?
Ouais, quand tu tapes deux gros noms, t'es plus vraiment un prospect. Hein.
Je pense que maintenant, il est sur un autre niveau, ouais.
Ouais. Et en parlant d'un gars qui est plus prospect, qui est dans un autre niveau, vu qu'on fait des mentions, petite mention de Joe Joyce aussi pour cette année quand même, non?
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait une belle année. Il fait une belle année. Ouais. Non, il fait une année très impressionnante.
Ouais.
Ouais, après j'allais dire, est-ce que aussi il brille pas du fait d'être un lourd? Donc forcément. Comme on disait tout à l'heure, bah, les petites catégories, on les regarde moins. Est-ce que là, du coup, on ne dit pas « Ouais, son année, elle est super parce que justement, c'est un lourd
bah, » Moi, la prestation contre Joseph Parker, franchement, c'était costaud. Hein.
J'étais en train de le regarder là, juste avant qu'on commence le live. C'est incroyable. Ouais. il a quand même l'air de rien, il a un peu progressé, un peu, mais on en reparlera. Non, c'est vrai qu'il fait une prestation très, très impressionnante contre Parker. Et peut-être que Fury, il a un peu fait dans son pantalon quand il a vu ça.
je pense qu'il préfère Usyk. Hein.
Ouais, c'est sûr. Il préfère le poids moyen.
Il a pas plus de mon petit lapin.
Non, non, non. Ouais, Jojo, je pense qu'il fait peur un peu à tout le monde, là, dans cette KT maintenant.
Ouais, je pense aussi.
Ouais. Après, bon, après, on part sur autre chose, les gars. On refera un débat autour de Judge, parce que j'allais relancer le débat. Non. Est-ce que c'est suffisant pour le placer dans les catégories qu'on disait, genre les révélations, ou en tout cas boxeur de l'année, Joe Joyce, ou on en est loin quand même des boxeurs qu'on a parlé jusqu'ici?
Non, 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 on en est loin, mais mention spéciale, quoi, on va dire.
Ok. Vous êtes d'accord, Abdel et Vincent?
Oui, oui,
Ouais.
oui.
Sinon, je le vire, Joe, hein, je peux le faire en un clic. Hein.
De toute façon, je le dirai tout seul dans 2 minutes.
Ok. Bah écoute, on va profiter, on va partir sur ton boxeur de l'année, du coup, Joe. On rentre dans le trio de tête qui, pour moi, clairement, ça va être très, très difficile de les départager. Objectivement, ça va être compliqué. On va commencer avec le Russe, Bivol. Voilà, une année où les Russes ont été mis sur la touche dans tous les sports, mais il y a la boxe. Et dans la boxe, bah, on a un Russe qui a fait une année extraordinaire, Dmitri Bivol. Un boxeur qui n'était pas trop connu avant l'année 2022, hein. C'est-à-dire qu'on savait que c'était un bon boxeur. Clairement, on pouvait aimer son style, mais on ne l'avait pas encore vu dans un niveau, vraiment ce genre de niveau. Voilà, le combat, bah, l'affiche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le rendez-vous. On va être devant notre télé, on va voir l'affiche de boxe. On n'avait pas encore eu ça pour Bivol. Et eh ben, on a eu des réponses lors du combat contre Saúl Álvarez, où il va défendre son titre contre Álvarez, boxeur de l'année dernière. Vous vous rappelez, hein, boxeur de l'année 2021. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette année de Bivol, et notamment de son combat contre Alvarez qui le rend hyper célèbre, qui fait de lui une star, hein, de la boxe? Qui veut commencer?
Allez,
Essayez de vous appuyer, essayez de vous appuyer un peu sur les arguments qu'a donné Joe tout à l'heure, si vous vous en souvenez, pour essayer de bah, soit de rebondir, soit de dire si vous êtes d'accord ou pas.
ok, bon bah je veux bien y aller. Alors, Bivol, pour moi, enfin, c'est un excellent boxeur. C'est vrai que voilà, ses performances qu'il a eues cette année, enfin, surtout la victoire face à Canelo, ça c'est la victoire qui le met vraiment sur le devant, parce que Canelo, c'est le visage de la boxe, c'est l'image de la boxe. Donc battre Canelo, c'est voilà, c'est vraiment se mettre, comment dire, enfin, avoir tous les projecteurs sur soi. Donc surtout qu'en plus Canelo, c'est pas n'importe quel boxeur, et que il a eu une année 2021 qui était très très forte. Donc c'est vrai que légitimement on pourrait mettre Bivol comme le boxeur de l'année. Moi personnellement, bah je trouve que enfin sa victoire à Canelo, c'est une grosse victoire. Mais c'est Canelo qui montait de catégorie pour le combattre. Donc c'est pas la catégorie de Canelo. Donc alors ça c'est un aspect, enfin c'est personnel, mais je trouve que ça réduit un petit peu sa victoire.
Non,
C'est
moi, c'est un
une très
bon, pour
belle
moi, c'est un bon
victoire,
argument. C'est
Ouais,
un
c'est un
bon
bon
argument.
argument.
C'est Bivol qui est dans sa zone de confort, il faut le dire. C'est
Voilà, ouais.
Alvarez qui venait.
Après, j'ai un contre-argument, juste avant de partir.
Attends, attends, laisse Vincent parler. Toi, tu as déjà parlé tout à l'heure. Vas-y, dis un mot, Joe, parce que je sais que tu vas partir. Après, nous, on aura le temps de te descendre. Vas-y.
Mon contre-argument, c'est Canelo, c'est pas comme si c'était son premier combat chez les Milos, où on aurait pu dire, ouais,
C'est vrai.
là, juste, il monte. Et du coup, bon, il perd, mais ça enlève un peu du crédit à Bivol parce que c'était le premier combat de Canelo chez les Milos. Faut pas oublier, les gars, que Canelo, il a fait un combat chez les Milos et qu'il a envoyé Kovalev à la retraite.
Ah, pas la retraite, hein.
Ouais, bon, presque.
Ah, ouais. Ben alors moi, je vais un petit peu rebondir. Alors, j'ai essayé de pas être trop long sur Bivol, mais j'ai pas mal de choses à dire. Bon, ça a été dit, il bat la superstar de la boxe, le The Face of Boxing, Canelo Alvarez. Pour moi, le fait que Canelo monte à 1000 lourds, vous l'avez rappelé, il l'avait déjà fait face à Kovalev, même si ce combat, oui, bien sûr qu'aujourd'hui, avec le recul, on a compris qu'il avait saisi une opportunité, mais il fallait quand même le faire. Je pense pas, très honnêtement, moi je trouve qu'il y a un peu une excuse sur ça, à dire ouais, Canelo, il a perdu parce qu'il était en sa caté. Moi, je pense vraiment que c'est le style, le profil de Bivol qui a posé souci à Canelo. Et je pense que d'ailleurs, si on en parle, à mon avis, ça n'arrivera pas. Mais ceux qui parlent de faire cette revanche en super moyen, je suis pas convaincu que ça change du tout au tout de le faire en super moyen. Ensuite, il prend Zurdo, qui effectivement était invaincu, qui était un boxeur qui débordait de confiance en lui. Et il faut voir comment Bivol va casser sa confiance dès les premiers instants du combat. Déjà en acceptant de rester en face de lui, pas de façon bête et agressive, mais vraiment de façon contrôlée, mais de rester en face et de le boxer de face et de vraiment lui faire perdre tous ses moyens. Ensuite, moi, il y a un autre truc que je vais aborder sur Bivol, c'est que pour le boxeur d'année, comme je disais tout à l'heure, il y a un peu une part de symbolique et il y a une part, qu'on le veuille ou non, d'extra-sportif. Cette année, on le sait tous, ce qui a été marquant, ça a été la guerre Ukraine-Russie. Et j'en parle parce que je pense que c'est un narratif qui va ressortir quand on va parler de Usyk. Et moi, je voulais le mettre en avant parce que c'est pas la question d'être pro-ukrainien ou pro-russe, c'est pas du tout la question, c'est que c'est quand même une guerre qui a un gros impact international. Il faut dire ce qui est, les instances du sport et de la boxe ont quand même eu le parti pris ukrainien et les sportifs russes ont quand même été mis un peu au banc cette année par rapport à ça. Moi, je me souviens, tu vois, par exemple, pour te donner un exemple, quand la guerre éclate, Ring Magazine, ils font une couverture sur les frères Klitschko. Il y a toute une lumière qui est mise sur les frères Klitschko qui sont très médiatisés à ce moment-là parce qu'ils prennent les armes. Et Vladimir Klitschko, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand la lumière est sur lui, il dit qui trouve que Bivol, il devrait pas avoir le droit de combattre contre Canelo. Que normalement, il devrait pas avoir à combattre. Ce qui, moi, m'avait beaucoup frappé à l'époque. Bivol, on n'a pas cessé de lui parler de ça dans les conférences de presse. Alors que lui, il a rien demandé. Il dit, en gros, non, non, mais moi, ça, je m'intéresse pas à la politique, je suis un sportif. Bivol, je vous rappelle qu'on y avait gelé sa bourse après le combat. Il a pas eu droit à ses hymnes. Il a pas eu droit à son drapeau. Il va affronter Canelo à Vegas. C'est dur de battre Canelo au point à Vegas. Surtout quand t'es russe. Surtout dans cette période. Et d'ailleurs, rappelez-vous les scorecards des juges qui ont quand même fait scandale. Donc, Bivol, moi, ce qui m'a inspiré, c'est que tout ça, il l'a absorbé de la façon la plus digne et il a répondu sur le ring. Et ça, je trouve que c'est quand même à mettre à son crédit parce que symboliquement, ce mec-là, il n'y a pas facilité la vie. Il a subi, je trouve, de mon point de vue, des pressions qui étaient injustifiées parce que lui, je veux dire, c'est juste un sportif. Et qu'il a assumé tout ça et qu'il ait répondu de la plus belle des façons sur le ring en faisant les performances qu'il a fait et en s'exposant comme ça de manière internationale, je trouve quand même que c'est très très fort et c'est pour ça que pour moi Bivol vraiment il mérite le titre de boxeur de l'année.
Ok, bah écoute, non, t'as développé un très très bon argumentaire. C'est difficile de derrière de dire que bon, non, c'est vrai qu'il était quand même assez éloigné du front. Il a fait sa prépa aux États-Unis, puis le deuxième combat c'était à Dubaï ou dans les Émirats arabes, je sais plus.
C'était ouais, c'est ça, ouais.
Voilà, donc c'est vrai que quand même il y a cet argument de dire que il a été moins impliqué directement que la team Loma. C'est vrai que eux, ils ont été un peu plus directement touchés, on va dire. Disons que ça a vraiment enlevé des parts de l'année de leur préparation et je pense que notamment Loma, ça va être difficile pour lui de revenir après cette coupure qui on sent que ça a été compliqué avec l'âge. Usyk, qu'il a été assez impressionnant pour ça et ça va peser aussi dans l'argument, mais c'est à défendre que quand on te bouffe la tête avec ça, notamment les conférences de presse, et on sait que ça joue, et on sait que le clan Canelo a joué de ça. Enfin, je veux dire, ils ont aussi soufflé sur ça. Ça les arrangeait qu'on vienne en rajouter une couche sur Bivol pour le sortir de son combat. Ça n'a pas marché. Bivol, il a été d'un sang-froid exceptionnel. Tout à l'heure, il y avait un message qui était assez intéressant de Virgile qui nous disait que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des arguments sur Bivol pour essayer justement de contrer, mais qu'avant le combat, le gros favori, c'était quand même Canelo qui sortait d'une super année.
Il y a ça
année.
Aussi, c'est vrai.
Voilà. Et c'est vrai qu'on a... Voilà, voilà. Mais après, quand même, quand on suivait la boxe d'un Bivol, ce qu'on pouvait imaginer, c'est qu'en boxe, il avait largement les arguments pour battre Canelo, et c'est en boxe qu'il l'a battu. On n'a pas vu un mec le casser physiquement, on n'a pas vu un mi-lourd détruire un poids moyen, tu vois. C'est en boxe, ça s'est joué. Et Alvarez, c'est vrai qu'il était déjà monté. J'ai un petit micro qui crépite, les gars. Si vous pouvez juste le couper le temps que ça se calme. Et...
Alors, je sais pas. Ouais. Ah, c'était Abdel apparemment.
Ouais, ok. Ah, et, ok, Joe. À la prochaine. Laisse un commentaire, salut. N'hésite pas. Et du coup, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand même, sur le papier, la performance de Bivol, elle est à remettre dans ce cadre-là. C'est que sa plus grande qualité, c'est sa boxe. Et on l'a pas vu se faire mettre en difficulté sur d'autres plans qu'on aimerait voir avec un Artur Beterbiev. On sait que là, Artur Beterbiev va sûrement l'emmener en eau profonde. Et là, on se demande comment Bivol va répondre à ça. Bivol a été exceptionnel en boxe. ce qui est beau avec lui, c'est que c'est la boxe qui parle. C'est vraiment la boxe qui parle. C'est une victoire de la boxe. Voilà, c'est pas une guerre où il y a un coup qui part et que l'autre il tombe et tout le monde dit, waouh, c'est magnifique, c'est ça. Mais en fait, c'est plus de la bagarre que de la boxe. Là, c'est de la pure boxe. N'importe qui voit Bivol boxer, il se dit, mais en fait, ça, c'est du grand art. Et tout le monde voit bien que c'est quasiment impossible de reproduire une telle gestuelle. En plus, il le fait dans deux cadres assez différents. Une fois contre Canelo, où Canelo, on sait comment il boxe, mais personne n'avait réussi finalement à le contrer malgré ça. On avait vu Saunders qui avait tenté un peu des choses, mais enfin Canelo, sa boxe, elle est claire. Hein. Tout le monde la voit bien depuis quelques années. C'était un peu comme Floyd Mayweather qui faisait toujours la même boxe, mais qui était imboxable. Ben Canelo, c'était devenu ça un peu, dans un autre style, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était devenu ça. Et Bivol, il arrive avec sa boxe et il empêche Canelo de développer sa boxe. Et c'est complètement fou. Et puis derrière, il y a la confirmation. C'est la confirmation qui est très importante. Encore une fois, Ramirez, on n'était pas inquiet niveau boxe. Hein. Personne ne pouvait dire, ouais, niveau boxe, techniquement, il va poser des problèmes. Non, c'était le physique. On se dit, ouais, là, exactement. Par contre, il va être face à un bestiau, quoi. Et c'était ça notre interrogation. Qu'est-ce que ça va donner face à cette bête? Et comme tu l'as très bien dit, Vincent, Bivol, il prend le centre du ring, il boxe Ramirez de manière très impressionnante et l'empêche de profiter de son atout principal qui était son physique. Et donc, par deux fois, il nous montre que sa boxe est la meilleure actuellement. Abdel, je te laisse rebondir.
Alors, juste, je me permets, parce que par rapport à certains commentaires que j'ai vu passer qui disaient « Oui, mais Bivol, il est aux États-Unis. » Oui, les gars, d'accord, mais reconnaissez quand même qu'il a été pris 5 arrêts à partie pour sa nationalité russe. Hein. Regardez un petit
Vincent,
peu tous les débats
que tu es trop russe. On a compris, on a compris.
Voilà, on va m'accuser. Mais mais c'est pour bien comprendre que ça n'a pas le fait qu'il soit aux États-Unis n'a pas vraiment contribué à désamorcer ça quand même, les gars. Hein.
Oui, bien sûr. Ouais. Abdel? Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que tu sais quand tu parlais de Canelo, Canelo, moi, je trouve qu'il y a des boxeurs qui ont trouvé des solutions à peu près sur comment le boxer. Après, c'était de tenir 12 rounds face à lui et de pouvoir encaisser ses coups. Parce qu'il me semble que Kovalev, il menait au point, je crois.
Il était pas mal. Je sais pas s'il menait sur les cartes des juges, mais en tout cas, beaucoup le voyaient devant. À ce moment-là, il avait fait un assez beau combat, ouais.
Donc, il y a la, tu vois, contrairement à Mayweather où sur le ring, il n'y a pas la solution. Canelo, il y a la solution, mais après, c'est de tenir les 12 rounds, quoi. Mais c'est vrai que oui, Bivol, Vincent, il a donné des très bons arguments sur Bivol. Et c'est vrai que voilà, cet aspect-là, en plus, surtout sur une année où politiquement, ça a été très compliqué pour les boxeurs russes. J'ai vu d'ailleurs que la WBC, elle veut enlever les titres aux boxeurs russes, apparemment.
Russes et biélorusses, ils veulent plus les classer, ouais.
Donc, c'est vrai que...
WBO va pas le faire aussi.
Ouais, non, mais il y a eu plusieurs fédérations qui en ont parlé, effectivement, ouais.
Et c'est vrai que, bien sûr, moi, comme... Enfin, je suis boxeur professionnel, je sais très bien que certains éléments extérieurs peuvent perturber, et quand il y a un élément comme la guerre, même si t'es ailleurs, t'es aux États-Unis, le fait qu'on te prenne à partie, le fait que je sais pas que t'es pas d'hymne, que t'es pas de, enfin qu'on te fasse subir ça, ça peut quand même jouer psychologiquement, ou ça peut te donner une force supplémentaire si t'arrives à rebondir dessus. Mais ouais, bien sûr, c'était pas évident en tout cas. Hein, l'année qu'il a dû vivre, elle a pas dû être très évidente.
Alors les gars, je vais donner deux petits contre-arguments et après on va passer aux deux autres et après on votera parce que là si on vote à chaque fois ça va être compliqué, on va voter une fois qu'on aura présenté les trois derniers boxeurs, enfin du coup les deux qui restent. J'ai deux petits contre-arguments, un qu'on a abordé tout à l'heure avec Vincent sur cette capacité à aller chercher le combat qui s'abrège avant la limite. Pour moi c'est l'une des limites de la boxe de Bivol. Alors ça s'explique sur un aspect technique, je vais pas trop rentrer dedans, j'en ai déjà parlé en des vidéos, mais Bivol a une boxe où il est beaucoup justement disponible sur les jambes, ce qui fait que contrairement à la boxe américaine, t'es vraiment ancré dans le sol, comme on peut le voir un Terence Crawford qui va arriver à trouver des coups durs. Bivol, c'est pas techniquement c'est pas du tout la même boxe, donc c'est vrai que c'est plus difficile, mais il lui manque quand même ce petit facteur où quand t'as pris le dessus sur un Alvarez, quand t'as pris le dessus sur un Ramirez, eh ben on a eu du mal dans les combats à avoir un moment où vraiment Bivol pouvait abréger le combat. On peut se dire, ah ça y est, là, Bivol, il peut abréger ce combat. Et c'est vrai que cette année, pour moi, ça fait partie des petits manques. Et le dernier, après, je vous laisse réagir à ce que j'ai dit, et on comparera après avec les autres, c'est que, bon, oui, c'est une belle année, mais c'est une défense de son titre de BFBA contre Alvarez, qui venait du coup de la catégorie inférieure, et une défense contre Ramirez. Et clairement, ce qui manquait cette année, c'était son combat contre Beterbiev.
Ah, on l'aurait tous voulu, hein.
Voilà. Et de son côté, Beterbiev fait quand même une belle année, hein, même si on ne va pas le citer.
Bah, il a fait qu'un combat, quoi.
Ouais. Mais il va faire, il va unifier, lui. Il va prendre la troisième ceinture qu'il n'avait pas. Je me trompe ou je...
Ah, cette année, il l'a pris, oui, face à Joe Smith, effectivement,
voilà.
Ouais.
Voilà. Donc c'est vrai que finalement, Beterbiev, on l'a pas du tout cité que quand on parle de Bivol. Mais voilà, il va chercher une troisième ceinture dans cette catégorie qui n'est pas une catégorie facile. Hein.
Non.
Et puis surtout, comment il gagne à chaque fois, Beterbiev.
Ouais, c'est ça.
Il ne faut pas oublier que c'est tellement rapide qu'on l'oublie. Mais surtout, ses adversaires, ils oublient ce qui s'est passé sur le ring. Ouais, mais voilà, le Beterbiev, voilà, il va gagner, il va taper un champion, il va l'écraser physiquement. Voilà, s'il n'y a même pas de discussion. Et ce n'est pas que du physique, hein, c'est aussi... Techniquement, Beterbiev, c'est très très propre ce qu'il propose. Ah,
c'est pointu, hein.
Voilà, donc c'est vrai que c'est à mettre dans la discussion ce petit manque de Bivol. Alors, c'est pas sa faute, c'est vrai, vous me direz oui, voilà, c'est compliqué, les ceintures, les négociations. Et voilà, je tiens à le dire quand même. Bon, je vous laisse réagir à ce que j'ai dit.
Bon, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que c'est aussi deux victoires au point.
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est vrai que bon. Ça aurait été, comment dire, c'est bon, c'est la performance, c'est ce qui compte, la technique, etc. Mais c'est vrai que quand il y a le petit plus, la victoire avant la limite, ça peut aussi ajouter sur le boxeur, quoi.
Ouais, moi après je comprends. Alors c'est vrai que Bivol, je pense que même lui d'ailleurs, il en a parlé après son combat contre Zurdo, qu'il n'était pas du genre à accélérer alors qu'il aurait peut-être pu accélérer. Donc c'est vrai qu'on peut prendre ce point-là. Contre Canelo, je pense que ça aurait été difficile parce que Canelo, faut le tomber quand même. Il a un coup de taureau, le mec. En plus, il a une bonne défense, donc c'est pas ça, facile. C'est surtout ça. Et pour ce qui est de la ceinture, ouais, moi après, une fois encore, tout dépend de ce que tu privilégies. Pour moi, les oppositions sont à privilégier par rapport aux ceintures. Donc le fait qu'il défende son titre, voilà, je veux dire, ça m'a pas gêné cette année parce que les deux affiches qu'il fait, ça faisait partie des deux affiches qu'on attendait le plus cette année.
Non mais je me devais de l'aborder parce que comme on l'a beaucoup abordé pour les autres boxeurs,
tout à fait, non,
fait partie
bien
de la
sûr.
Discussion. Je pense qu'il bien fallait sûr. Quand même en parler et surtout que ce combat-là entre Beterbiev et Bivol, surtout, je pense que rappelez-vous ce qu'on pense une fois que Bivol a battu Alvarez. Là, on est tous en train de se dire vraiment le combat qu'il nous faut aujourd'hui parce que ça y est, Bivol, il a prouvé que sa boxe était exceptionnelle et qu'il pouvait déjouer même un Alvarez, vraiment le déjouer complètement. Et ce qu'on se disait après ce combat-là, c'est franchement le combat qu'on veut dans cette caté. C'est cette opposition entre deux styles très différents, deux super boxeurs. Et même si Ramirez, on était contents, c'était une belle affiche, mais on avait ce petit arrière-goût dans la bouche, il faut le reconnaître.
Ah ben on l'atteint, c'est sûr, hein. Mais en même temps, bon, c'est triste à dire, on a été habitué en boxe à pas voir les combats qu'on veut.
Clairement, c'est vrai. Alors juste, il y a une petite remarque de Malik qui nous dit qu'il sentait pas la même énergie lorsqu'on parlait d'un Charlot et quand on parle d'un Beterbiev. Mais est-ce qu'on peut comparer la performance de Beterbiev cette année à la performance de Charlot contre Castagnier?
Ouais, c'est différent. Beterbiev, il y a un côté, en fait, c'est deux boxeurs très différents dans le sens où Charlot, c'est comme tu l'as dit, un immense technicien de la boxe et tout. Beterbiev, mm-hmm. Il est plus technique qu'on le croit. D'ailleurs, c'était Gvozdik qui avait dit de Beterbiev, c'est un puncher surestimé et un boxeur sous-estimé. Mais Beterbiev, il y a un peu ce truc que tu trouvais, tu vois, comme des boxeurs, comme Rocky Marciano, par exemple, c'est que il te ramène un peu à l'inéluctable, il te ramène au fait que la boxe, c'est aussi un combat, c'est un affrontement, et qu'au bout d'un moment, tu peux avoir la technique et tout, mais lui, physiquement, il va te détruire, quoi.
Alors, juste, peut-être que je me suis pas super bien exprimé, je devrais être un peu plus clair. Je parle de son adversité, Joe Smith Jr., avec tout le respect que j'ai pour lui.
Oui.
C'est pas le même niveau qu'un Castagno. Tu vois ce que je veux dire?
Alors, c'est pas
le même
niveau. La
proposition de combat.
Mais c'est plus, pour moi, c'était plus dangereux dans le sens où quand même, il a un punch qui est assez fort de Joe Smith. Et alors, moi, Joe Smith, je vais te dire, ce qui m'a impressionné, c'est que je suis, Joe Smith, c'est un boxeur que j'aime beaucoup, moi. Je l'ai pas mal suivi et ça fait des années que c'est le seul mec un peu qui disait, moi, je veux affronter Beterbiev. Et je suivais un petit peu tous ces trucs, ces préparations. C'est un mec qui, depuis des années, s'est mis dans la tête cet objectif Beterbiev. Donc je me dis, c'est quand même un mec qui s'y est préparé depuis des années, qui sait que ça va taper et qui sait ce que... Et regarde le combat, dès le premier round, il perd tous ses moyens, Joe Smith. Et ça, j'ai trouvé ça impressionnant parce que Joe Smith, on ne peut pas lui reprocher d'avoir un petit mental. Et rappelez-vous le combat contre Barrera où il se fait décrocher la mâchoire au quatrième ou cinquième round et qu'il fait quand même les 12 rounds. C'est pas une petite nature, le Joe Smith. Donc pour qu'il se soit décomposé comme ça dès le premier round, j'ai dit, waouh, c'est vrai que Beterbiev, quand même, c'est monstrueux, quoi.
D'accord. Ouais, ouais. Donc, faut reconnaître que c'est un petit oubli de notre part, le Beterbiev. On aurait peut-être dû en parler un peu plus dans cette vidéo.
Et ouais, si je pourrais rajouter, bah, moi, j'avais vu Joe Smith contre Bivol. Je l'avais vu en live. En fait, j'étais sur place aux États-Unis. Et c'est vrai que Bivol, quand même, j'avais trouvé qu'il avait été quand même en difficulté face à Joe Smith, hein.
Il y a un round où il y a une fin de round qui est où c'est passé très près pour Bivol. C'est, je crois, donc, la fin du dixième où il se fait toucher, qu'il retourne dans son coin titubant, ouais.
Et c'est vrai que de voir Beterbiev comme ça là, le détruire en, je sais plus, je crois, en deux rounds.
Ouais.
Ouais, c'est, bah, franchement, moi, ça m'avait impressionné quand même. Donc, c'est vrai que Beterbiev, ça reste un sacré client quand même.
Stéphane qui est Joe Smith, c'est un ouvrier de la boxe dans le bon sens du terme. Je trouve que vous êtes. J'aime bien Joe Smith, mais je vous trouve un peu généreux avec lui. Mais bon, ok, j'entends, je vous l'accorde, je trouve que quand même dans les grands rendez-vous, on a quand même vu ses limites. Mais bon, c'est un gars solide et il a donné des beaux combats. On est d'accord. Les gars, on va passer à Oleksandr Usyk. Je dois vous avouer que pour moi, il était pas dans la discussion. Enfin, je dirais, c'est Usyk, il n'y a pas de souci. Mais j'ai posé la question à mes chers amis et notamment Vincent et Abdel. Et puis quand j'ai reçu un peu des retours des uns et des autres, je me suis dit bon, c'est vrai quand même. Il faut qu'on parle d'Usyk. Il faut qu'on dise un petit mot sur Usyk. Usyk, bon, cette année c'est un combat, c'est une revanche contre Joshua et c'est une confirmation aussi en terrain neutre hein, à Jeddah. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de l'année de Usyk ? Qui veut commencer ?
Je vais commencer. Usyk, c'est vrai que bon, il fait son combat contre Joshua, son combat revanche. Il a eu, enfin, lui comme Lomachenko, ils ont eu une année compliquée à cause du conflit politique. Mais c'est vrai que la prouesse déjà qu'il a fait d'avoir eu de monter de catégorie et d'avoir chopé les ceintures, enfin, c'est quand même une sacrée performance, pour avoir fait, c'est un seul combat en 2022, c'est ça, c'est que le combat revanche contre Joshua. Non, pour moi, je peux pas le mettre boxeur de l'année parce que juste de battre en combat revanche Anthony Joshua, franchement, moi, je pensais que déjà, après le premier combat, je pensais que s'il y avait revanche, ce serait la même. Usyk le battrait dans le combat revanche, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, Joshua, il a certaines limites. Et je pense que s'il combat 10 fois Usyk, il perd 10 fois contre Usyk. Et de le mettre boxeur de l'année parce qu'il a gagné sa revanche contre Joshua, moi je trouve que ce serait trop gros.
Vincent, je te laisse enchaîner, donner tes arguments.
Alors, si on doit trouver des arguments pour Usyk, je dirais qu'effectivement, une fois encore, tu rentres dans l'extra sportif, un peu comme Bivol, effectivement, il y a la guerre en Ukraine, donc il y a Usyk qui met sa carrière entre parenthèses. Pour le front, alors oui, il a pas été en première ligne, mais il a quand même été dans des zones qui étaient bombardées, faut pas l'oublier. Et surtout, bon, comme tout le monde dans la guerre, il a laissé des plumes. Hein. On sait qu'Usyk, sa maison, elle a été pillée, en partie détruite. Donc, c'est pas facile de te préparer dans des conditions comme ça, surtout pour un combat, voilà, où en fait, Joshua et Diane, ils se sont dit, là, il y a un coup à jouer, quoi. D'ailleurs, je me souviens de la vidéo que tu avais fait à l'époque, JC, où il disait, où tu avais dit pourquoi Joshua va battre Oleksandr Usyk. Tu t'étais dit, est-ce qu'il va pouvoir vraiment, malgré tout le contexte, se détacher de tout ça et en fait arriver en forme au combat. Je pense que d'ailleurs c'était pas forcément le meilleur Usyk qu'on ait vu, même si c'était un excellent Usyk et qu'il arrive quand même à faire cette performance face à un Joshua qui est quand même bien meilleur qu'au premier combat. Et bon, je pense que quand même le contexte, on dit que c'est un terrain neutre, mais le contexte était quand même fait en faveur de Joshua. Tu sais, je vais dire rien que à l'entrée de Joshua, je sais pas si vous vous souvenez, sur les images à côté, tu vois un phénix. Tu sais, en gros, c'est le phénix qui va renaître de ses cendres. Donc, le narratif était déjà tout créé. Il y a une décision d'ailleurs partagée qui est très douteuse parce que la plupart des gens, quand même, ont vu Usyk l'emporter au point. Mais c'est vrai que pour rejoindre Abdel, ben, dans les faits, il bat un mec qu'il avait déjà battu. Et c'est vrai que c'est qu'un combat. Alors, certes, ce combat sera probablement l'événement de l'année 2022. Donc, pour moi, Usyk, il mérite sa place dans la discussion. Maintenant, personnellement, je ne mets pas boxeur de l'année.
Alors, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit, Vincent, et sur ce qu'a dit Abdel. Moi, ça me fait penser à ce que fait Devin Haney, c'est-à-dire que le deuxième combat est presque inutile. C'est-à-dire que très peu espéraient que Joshua fasse mieux. Limite, ce qu'il a fait, c'était presque inespéré, vraiment ce qu'il a proposé au deuxième combat, en disant bah, « Franchement, bravo à lui, on a même un peu de respect pour lui, en disant bah, « Franchement, il a tenté de faire des choses, mais on ne s'attendait vraiment pas à plus que ça. » Après, je vais revenir sur le contexte, parce qu'il est quand même important, et comme tu as parlé du contexte pour Bivol, on ne peut pas ne pas parler du contexte pour Usyk et ça quand même ça pèse dans la balance, surtout que je pense que le clan de Eddie Hearn, on ne va pas se mentir, eux ce qu'ils voulaient c'était absolument réitérer ce qu'ils avaient fait avec Andy Ruiz, c'est-à-dire que tu reprends tout de suite l'adversaire et tu essaies de le prendre au moment où lui il est le plus instable, et ça me fait beaucoup penser à la revanche entre Sugar Ray Leonard et Roberto Duran. Voilà, quand tu fais le combat revanche, quand ils font le combat revanche, voilà, ils font les ajustements. Alors bien sûr, Leonard, c'est pas Joshua, voilà. En termes de boxe, on a autre chose parce que là, les ajustements, ils ont été faits et c'était incroyable. Mais toute proportion gardée, c'est l'idée de tu reprends le boxeur au moment où tu sais que lui va être le plus mal. Là, le gars, il est en pleine guerre, donc ils disent publiquement oui, on va lui laisser le temps de réfléchir. Mais je pense qu'il a reçu beaucoup de contrats, le Usyk, pendant cette période, en disant ah, tu veux pas le faire là, ah, on peut te le faire là, on peut te le faire là, t'inquiète pas, on va te faire les choses bien, on te laissera le temps de te préparer. Mais il savait que là, il faut y aller, il faut lui envoyer le contrat maintenant, il faut pas le laisser le temps de se refaire la cerise. Et puis on voit à leur tête que, punaise, ils se sont dit, mais ce Usyk, il est quand même revenu en forme, bordel, c'est pas possible. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il soit, tu l'as très bien dit, Vincent, il était un peu amoindri, mais je pense que tout le monde se disait, non, il va être quand même beaucoup plus amoindri. C'était ça ce qu'ils espéraient, ce qu'ils attendaient de Usyk. Et au final, ben, ils se sont retrouvés comme des cons en disant « Mais c'est pas possible, ce mec-là, c'est vraiment le Joker. On a beau tout tenter, il revient à chaque fois. » quoi. Donc, il faut reconnaître à Usyk quand même cette capacité à, dans une période compliquée mondialement, il est resté très pro. Il a accepté de faire le combat revanche. Il a dit « Bon, ben, c'est le deal, je laisse pas les ceintures vacantes. » Parce qu'il aurait pu… Franchement, il ne lui aurait pas reproché. Tu laisses les vainqueurs, les ceintures, il revient, il a tout de suite un super fight. Il a dit non, je prends mes responsabilités, je reviens, je fais ma prépa et je vais taper Joshua. Et il le tape, voilà, c'est la classe, il n'y a rien à dire. Il y a du panache, c'est un beau combat, mais c'est un combat et on est tous d'accord, on savait que Usyk confirmerait.
Oui, on l'avait anticipé, ouais. Ouais.
Je vais lire un peu les commentaires. Si quelqu'un veut juste réagir à ce que j'ai dit pour que je regarde s'il y en a des commentaires un peu sympas. Ouais, donc peu importe les circonstances, un combat qu'une seule fois dans l'année face à un adversaire qu'il avait dominé largement, il ne cherche pas le chaos, principale critique que vous faites à Bivol. Ouais, on peut retrouver la même critique.
C'est vrai. Après, il y a l'écart physique qui donne, il faut
parler. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est pas la même chose. Usyk qui monte chez les lourds, on n'arrête pas de dire que, franchement, pour son gabarit, c'est quand même beau ce qu'il fait. S'il cherche pas le chaos, moi je dis que c'est beau. Hein.
Ah ben, c'est exceptionnel, ouais.
Donc là, on réagit sur le Nomas. Fury, c'est un monstre. Bon, alors, ça parle de Fury, donc c'est autre chose. L'année de Fury, franchement, exceptionnelle. Hein. C'est dommage qu'on n'en parle pas, mais... Merci, Franck Warren. Hein. Vraiment, bravo. Hein. Bon, les gars, Usyk, il fallait qu'on en parle. Je pense que le débat maintenant, ça va être clairement entre Bivol et le japonais Naoya Inoue. Si vous êtes d'accord, on va passer à ce duel-là. Les gars, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si pour vous Usyk mérite le titre de boxeur de l'année. Il a été élu à 40%, hein, si je regarde le sondage.
Ah ouais.
De sur Box Attitude, 40%. Vous voulez que je vous dise les chiffres exactement?
Ouais, vas-y, ouais.
Allez, bah attendez, je vais aller chercher ça. Parce que ouais, après, bon, on sait, hein, poids lourd.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire.
Je pense que les gens n'ont pas regardé tous les combats des boxeurs que j'ai cités. Par contre, le combat de Usyk, ils sont au courant, ils savent ce qui s'est passé. Il a battu Joshua, qui est une star mondiale. Enfin, tout le monde connaît Joshua. Je veux dire, je suis sûr que j'appelle ma mère, je lui dis, tu connais Joshua, elle connaît. C'est incroyable. Joshua, c'est une figure. 54% pour Usyk, c'est énorme.
Ah oui.
Il y a presque 2500 votes. 54% pour Usyk. 22% pour Bivol. Donc, t'as vu, il a écrasé Bivol.
Ouais, complet.
15% pour Inoue. C'est quand même beau parce que quand tu prends un poids coq qui fait 15%, c'est joli. Et le pauvre Jermel Charlo, il a moins de pourcentage que le sans opinion. Il a 2%. Et sans opinion, c'est 8%. Ça n'a pas respecté Jermel Charlo. Les gens ont préféré voter sans opinion que Jermel Charlo. Ah, c'est dur. Vous êtes durs, les gens. C'est abusé. Mais non, YouTube est cruel. Franchement, t'es boxeur, tu te décarcasses et on te met sans opinion dans la gueule. Alors, les gars, on va attaquer sur Naoya Inoue. Moi, je vous le dis clairement, je vais pas vous mentir. C'est mon gars. Voilà, c'est mon chouchou. Je vais le à partir de maintenant, c'est la bagarre. Je vais le défendre, le couteau entre les dents. Et je vous bloquerai, je vous mettrai sur muet si vous donnez trop de bons arguments contre moi. Alors, je vais commencer par deux arguments qui ont été donnés par les abonnés sous le dernier live. D'ailleurs, j'ai fait un écran noir le live. Je trouvais que c'était pas ouf. Donc là, on va plutôt faire les lives comme on le fait aujourd'hui. Je trouve que c'est quand même plus sympa à suivre.
Ouais.
Et alors du coup j'ai demandé de donner des arguments pour Inoue parce que je voulais avoir le maximum de force quoi. Et donc j'en vois deux qui sont pas mal. Je vais pas dire tous parce qu'il y en a d'autres qui sont très intéressants. Mais il y a Valentin qui nous dit, donc je prends juste un extrait. Hein. Cette année Inoue c'est deux KO magnifiques et surtout la finalisation d'un travail commencé il y a maintenant plus de 4 ans. Le chemin parcouru semble aujourd'hui titanesque quand on revoit les images du tournoi Mohamed Ali. J'en prends un autre, c'est Thomas. Alors pareil, c'est un extrait parce qu'il a mis un très long commentaire. Je vous invite à aller voir, c'est sous la dernière vidéo si vous voulez lire ça en complet. Thomas, il nous dit, il commence l'année avec 2 ceintures. Il prend Donner, une légende, qui est en très grande forme. Et à ce moment-là, le danger numéro 1 pour lui dans la KT. Il le bat en 2 rounds. Ensuite, il prend Butler pour la dernière ceinture qui lui manque et réalise une masterclass avec un nouveau KO. Inoue, cette année, c'est 2 combats pour 2 nouvelles ceintures. 2 performances incroyables. Le KO a unifié totalement la catégorie des coqs, certainement numéro 1 pound for pound. Il a tout fait, c'est une année fantastique. Je suis prêt à débattre avec ceux qui disent Bivol, mais j'ai d'autres arguments. Mais désolé, cette année, le roi est japonais et il s'appelle Naoya Inoue. Bon, moi, je pense qu'on peut arrêter le live ici. Hein. Voilà, c'était très, très sympa. Alors, qui veut commencer pour Naoya Inoue?
Bah, écoute, je veux bien, si ça ne te dérange pas, Vincent.
Non, vas-y, je t'en prie.
Ouais. Alors, moi, je le mettrais aussi numéro 1. Je le mettrais aussi en boxeur de l'année, bien que je peux totalement comprendre les contre-arguments, parce que on va nous dire, je pense que Donner est trop vieux et que Butler, bah, c'est pas un nom. Donc, je peux totalement comprendre ces deux arguments, mais c'est vrai que quand on regarde le boxeur depuis qu'il est professionnel, bah, le mec, c'est incroyable. Et je pense que 2023 et même 2024, je pense qu'il va faire des années exceptionnelles. Déjà, il a été élu numéro 1 pound for pound. Et je crois que c'est le seul japonais qui a été élu numéro 1 pound for pound.
Donc, de l'histoire, ouais.
De l'histoire. Donc, il rentre dans l'histoire. Là, le fait qu'il fasse une unification donc totale, même si tout à l'heure, on a dit que c'est l'adversité qui compte, les adversaires, c'est le premier poids coq à le faire. De l'histoire à unifier les 4 ceintures, hein, sous les 4 ceintures. Ensuite, Ah, je me souviens plus ce que je voulais dire, mais c'est vrai que ouais, quand on regarde Inoue, c'est incroyable dès son passage professionnel en fait. Au bout de son quatrième combat, il est champion du
C'est
Japon alors que
fulgurant, c'est fulgurant ce qu'il fait là.
le Japon, ça regorge de boxeurs. Il y a plus d'une centaine de boxeurs dans la catégorie des poids coqs. À son cinquième combat, il fait champion d'Asie, son sixième combat champion du monde, et après, il a fait que des championnats du monde. Et en fait, peu importe qui était face à lui, il les atomise, quoi. Et Donner, c'est vrai que quand on avait vu le combat en 2021, ouais, il me semble que c'est
2019.
2021. Ah,
2019.
2019, ouais, excuse-moi.
Le premier, ouais.
Oui, le premier. Donc le premier Inoue Donner, quand on a vu le combat, qui a été donc en plus élu combat de l'année, on s'est dit le deuxième, ça va être un combat de fou furieux. Et en fait, boum, il
Et
l'a
surtout,
atomisé
et
très rapidement.
Abdel, pour rajouter à ton argument, c'est que surtout l'année 2021 de Donner, il prend deux invaincus et les deux, il les bat par KO en
Et oui.
quatre rounds. Les deux, il les bat en quatre rounds.
Ouais, tout à
Enfin,
fait.
c'est une année 2021 qui
Ouais.
est énorme. Donc on peut se dire, OK, il va revenir en pleine confiance pour reprendre Inoue.
Ouais.
C'est impressionnant. Vas-y, continue, Abdel, excuse-moi. C'est
Ouais,
juste pour
bah
rajouter
c'est
ça.
clair, c'est clair. Donc voilà, et quand on voit comment il a détruit Donner, et on voyait qu'il était prêt pour ce combat dès le début, tu le vois qu'il est vif, il est dedans, il est très percutant. Donner, il l'a dit, hein, dès le premier coup net qu'il a pris, il a senti que ça y est, ça allait. Enfin, il a senti qu'il se passait quelque chose, quoi. Ouais, pour moi, franchement, j'ai envie de le mettre boxeur de l'année. Alors, est-ce que je suis influencé parce que c'est ma catégorie et que c'est un boxeur que je trouve
Non, non, pas
exceptionnel?
du tout. Tu es
Je
totalement
sais
objectif,
pas.
tu es totalement objectif.
Mais c'est vrai que quand même, les avis sur ce boxeur, ils sont quand même unanimes. Enfin, les Américains, ils le kiffent quand tu regardes, quand tu entends les spécialistes, hein, quand tu entends André Ward, Timothy Bradley et d'autres boxeurs parler, on voit que c'est un boxeur qui est exceptionnel et voilà, qui sort vraiment de la norme, comme il y en a peu des boxeurs comme ça. Après, je comprends totalement l'argument de dire que voilà, il a pris sur les deux boxeurs qu'il a pris, on pourrait dire que Donner il est sur la fin de sa carrière et que
Ah, on
Butler
t'a
va
perdu,
l'assainir.
Abdel, on t'a perdu, on n'entend plus ce que tu dis, on t'a perdu. Non, non,
Et aussi, ouais, ce que je voulais ajouter, c'est que, enfin, ce que je trouve dommage, normalement, ça aurait dû être Casimiro au lieu d'être Butler. Mais à cause je sais même plus c'est quoi les histoires, c'est
alors,
enfin le.
c'est une histoire un peu bizarre que soi-disant Casimiro en fait est allé au sauna avant de
Oui.
la peser et que selon la fédération britannique c'est interdit, c'est pour ça qu'ils l'ont empêché de combattre et ça a fait
Mais c'est
vivement
fou ça.
réagir. Il y a beaucoup de boxeurs anglais qui en fait ont posté des coms en disant ah ben merci de nous mettre au courant parce qu'on n'était pas au courant que c'était interdit.
Mais ouais, mais je trouve ça fou, moi.
Ben je me
Donc,
demande si on n'a pas voulu l'écarter, ouais Casimiro, je sais
ouais,
pas.
je pense qu'ils ont profité d'une faille, une faille du système, et ils se sont dit, allez, on va profiter de ça pour l'avoir. Vincent, vas-y, on va te laisser rebondir un peu sur les arguments pour Inoue.
Alors, Ariane Pouinou, alors c'est vrai que voilà, il y a ce truc Donner, effectivement, que Donner, 39 ans, était plus le Donner de 2012 ou 2011. Mais il faut reconnaître, parce que moi j'ai suivi la carrière de Donner, c'est un boxeur que j'apprécie regarder, j'aime beaucoup les boxeurs philippins. Il a eu un revival Donner à partir du moment où il est retourné chez les poids coqs. Et il fait ce Ali Trophy où il finit en apothéose dans le coma contre Inoue. Et c'est vrai que vous l'avez précisé, 2021, Donner, il nous a fait peur. On s'est dit, non, mais attends, il défie toutes les lois, ce mec, c'est pas possible, quoi. C'est incroyable. Et moi-même, le coma d'Inoue, eh ouais, je disais, bon, alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais quand même ce narratif, je sais pas si je t'en avais déjà parlé, j'y sais, mais j'avais souvent dit, moi, je vois ça, cette revanche, je pense qu'elle arrivera, et je voyais ce narratif comme Holyfield contre Dwight Mohamed Kawi, c'est-à-dire un premier combat qui est hyper serré, pareil, qui est un super combat, et au deuxième combat, Holyfield, tu vois qu'il a mûri, et il détruit Kawi en quatre rounds. Et j'y ai, je vois un truc un peu de ce style pour Inoue, et surtout que je voyais qu'Inoue en 2021, il s'était étoffé physiquement, et ça y avait manqué, ça, face à Donner. Rappelez-vous, premier combat, tu voyais que Donner était beaucoup plus massif. Et là, on voyait qu'Inoue, il arrivait plus massif pour ce combat. Mais par contre, même en m'attendant à ça, je m'attendais pas à ce que ce soit en deux rounds comme ça, exceptionnel. Pour moi, c'est la performance de l'année, honnêtement. Tu vois, autant je mets Bivol, boxeur de l'année, notamment pour sa performance contre Canelo. Mais pourtant, pour moi, la performance de l'année, c'est Inoue Donner, parce que mettre KO ce Donner-là, en deux rounds, c'était fabuleux. D'ailleurs, petit aparté, juste sur ce combat, j'ai beaucoup apprécié, je sais pas si vous vous souvenez de l'image qu'à la fin Donner a mis KO. Le premier qui vient à son chevet, c'est pas son coin, c'est le père d'Inoue, qui saute sur le ring et qui va de suite sur Donner. Il arrive sur Donner avant que même le coin de Donner arrive. J'ai trouvé l'image super belle, du coup. Et après, ben ouais, alors je suis d'accord avec Abdel. En fait, je suis assez déçu. Moi, je voulais vraiment le combat contre Casimiro. C'est un combat que je veux depuis longtemps. Même si je pense que Casimiro, il se fait exploser contre Inoue. Mais c'est pas grave, tu vois. Je vois ça un peu, moi, comme Trinidad Mayorga, tu vois. C'est un combat un peu de chien fou. J'aurais vraiment aimé voir ça. Butler, c'est un peu décevant, effectivement, parce que Butler, en fait, il arrive très rapidement. En fait, je pense que peut-être au premier round, il arrive avec un game plan. Mais dès les premiers échanges, il comprend, il se dit, bon, il dit, c'est pas possible. Survie. Il passe en mode survie. Et là où Inoue a été très fort, c'est qu'il s'est dit, il a vu que l'autre, il se protégeait, il se mettait en carapace. Tu sais, ça m'a un peu rappelé Manny Pacquiao contre Joshua Clôté.
Ou oui, Clôté, pareil. J'avais vu ton message, j'avais pas trop compris, ouais. Mais c'est vrai, t'as raison, ça m'est revenu après.
Ouais, exactement ça. Et Inoue, il prend son parti de dire, OK, bah, tu sais quoi, on va jouer. Et Inoue, il va s'amuser. Pendant plusieurs rounds, il va mettre les mains derrière le dos, il va faire du Roy Jones, il va se mettre en garde basse, il va un peu narguer son adversaire. Et ce qui est spectaculaire, c'est que, je sais pas si après le 10e round, super, il a dit, bon, allez, t'arrêtes de jouer avec la nourriture. Il se lève, Inoue, et il fait signe à tout le monde, bon, allez, maintenant, le spectacle est fini. Et une minute après, bam, 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 c'est fini, c'est KO. Donc ça, c'est quand même assez spectaculaire. Et ça prouve aussi que Inoue, il est rentré dans une autre dimension, et ça, t'en parlais, JC, c'est qu'on sentait la star Inoue, qui vraiment, cette année, voilà, c'est la star Inoue. Maintenant, voilà, si moi, je me laisse Bivol devant, c'est que, bon, voilà, il y a un Donner qui est pas tout jeune, même si une fois encore, je vous le dis, pour moi, c'est un très gros Donner et pour moi, c'est la performance de l'année. Il y a un Butler qui était pas ouf et il y a ce truc que Inoue reste au Japon quand même, un petit peu dans sa zone, là où Bivol, il va quand même dans des terrains un peu plus conquis.
C'est vrai.
Voilà. C'est vrai. Mais après, pour moi, après, il est très légitime dans la discussion, Inoue, mais je donne quand même l'avantage à Bivol.
Après, l'argument de rester au Japon, c'est un très bon argument, j'y pensais, mais il ne faut pas enlever que les boxeurs aussi, ils veulent gagner leur vie et se vendre pour leur qualité. Et qui remplit des salles et paye aussi bien que les Japonais ? Voilà, je pense qu'il a tenté d'aller se vendre un petit peu aux États-Unis. Est-ce qu'on lui a vraiment donné, toi, ce qu'il mérite? Parce que on parle d'une des stars de la boxe, on parle d'un boxeur exceptionnel. On l'aime tous, Inoue, vraiment pour la boxe qu'il propose. Est-ce qu'on lui met vraiment l'argent qu'il mérite quand il va aux États-Unis? Donc, je peux comprendre qu'il ait aussi choisi son peuple. Les Japonais sont des patriotes. Si un jour on a un boxeur français qui est aussi bon, on aimerait qu'il boxe en France. Donc, voilà, je pense que aussi ça peut s'entendre, mais c'est un bon argument et je l'accepte aussi de ce côté de, bah, c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il aille chercher ses champions, peut-être. Dans le monde, mais il l'a déjà fait par le passé. Ça, on peut pas, voilà, on peut pas lui enlever. Quand Rodriguez, ça se passe à Glasgow. Voilà, en fait, il y a eu des combats où il est allé chercher à l'étranger. Maintenant, donc, je vais revenir un peu sur cette année d'Inoue. Pourquoi moi, il m'a particulièrement marqué. Parce que moi, je trouve que Inoue regroupe les arguments qu'on a donnés pour chaque boxeur qu'on a cité ce soir. C'est-à-dire que c'est un boxeur, comme je disais avec Jermell Charlo. C'est un processus. Il allait chercher les meilleurs de sa caté. Une belle caté, quand je parlais de Charlo, c'est une belle caté. Ben, les coques. Enfin, depuis 2019, les coques, franchement, c'est l'une des catés où on rêvait d'avoir un champion unifié. On n'arrêtait pas d'en parler. Et ben, Inoue, il nous l'a fait. Il nous a donné le champion unifié de la catégorie des coques. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on réclamait depuis un moment. Avec notre cher français, hein, voilà, Nordine, on espérait qu'on aille unifier des titres. Ben voilà, Inoue, il l'a fait. Il allait chercher les champions. Et cette année, il prend deux champions et il les bat, il les surclasse. Techniquement, il est exceptionnel. Lui aussi, franchement, on peut comparer en termes de technique à un Bivol dans des styles différents. Le style japonais et le style russe sont des styles différents. Mais lui aussi, c'est un mec qui a des qualités techniques extraordinaires, Naoya Inoue, et qui, au fil du temps, ben, s'améliore. Après, il y a un truc pour moi qui est très important. Après, je te laisserai réagir, Vincent, j'ai entendu. Pour moi, aujourd'hui, en 2022, on a quatre boxeurs qui sont sur le toit du monde de la boxe. C'est les trois qu'on a cités, mais j'en rajouterai un, c'est Terence Crawford. D'accord ? C'est techniquement, voilà, en termes de qualité de boxe, pour moi, c'est les quatre noms. Et d'ailleurs, ils se disputent hein, dans Ring Magazine, Pound for Pound. C'est la bagarre voilà, entre ces noms-là. Et je rajouterai que ces quatre boxeurs, je les divise en deux. T'as Usyk et Bivol, qui sont des grands techniciens et qu'on voit largement dominer 12 rounds d'un combat. Mais la différence avec Crawford et Inoue, c'est que Crawford et Inoue, c'est des boxeurs qui ne veulent pas seulement gagner. ils veulent gagner avant la limite. Et c'est des boxeurs qui vont tout mettre en place pour que le combat n'aille pas au bout. Et ça, c'est ce qu'on aime. Et ça, c'est ce qu'on veut voir dans la boxe. Et ça, c'est ce qui fait que on dit, ouais, la boxe spectacle, c'est après des combats où on s'ennuie, comme devant Devin Haney. Quand je vois des commentaires, des gens ils disent ils s'ennuient, ben, je peux les comprendre. Parce que ça manque de ces boxeurs qui ont ce panache, qui ont cette soif de sang et inouée. Je suis désolé par rapport à un Bivol et un Usyk. Lui, il va tout faire pour abréger le combat. Butler, il peut danser, hein. Il peut danser pendant 12 rounds, il n'y a pas de souci, hein. Non, il va le marteler pour que Butler arrête ce combat-là. Et pour moi, c'est ça un boxeur d'année. C'est un boxeur qui va tout donner sur le ring, il va mettre son âme et il va arracher la tête de son adversaire. Pour moi, Inoue, c'est lui le boxeur de l'année.
Ouais, non, c'est clair, mais que comme tu disais, en fait, Butler, moi, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il peut courir pendant 10 rounds. À partir du moment où Inoue a dit, je finis le combat, et je veux dire, c'est pas du hasard. Le mec, il se lève au 11e, il se met là en mode en disant à tout le monde, bon, ce coup-ci, je le finis. Moi, je me souviens, j'ai vu ça, j'ai dit, putain, s'il le finit là, franchement, eh ben, ça a pas manqué, quoi. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Ça, je suis clairement d'accord. Voilà, après, ça, je veux dire, il n'y a pas de, c'est vrai que les deux, Inoue et Bivol font une super année. Pour moi, ça se joue clairement entre les deux. Voilà, moi, j'ai donné mes raisons. Je sais qu'à un moment donné, pour faire une aparté, on avait parlé JC, si pour moi, Chocolatito avait battu Estrada, il aurait pu être dans la discussion. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai que voilà, tu as deux super boxeurs et qui sont assez similaires, en fait, à rappeler, même si c'est pas un puncher, Bivol, mais c'est une boxe très académique, les deux, et hyper maîtrisée, par contre.
Et juste, je rajoute un truc, j'y pense là. On dit dans les commentaires, je crois que c'est Malik qui dit oui, les adversaires de Inoue sont pas à la hauteur des adversaires de Bivol. Bon, ça peut s'entendre. Après, c'est les meilleurs de sa catégorie. Il va prendre deux champions. Donner, c'est quand même, enfin, quand tu suis la boxe depuis des années, ça fait partie des grands noms de notre génération. Donner, tu vois, il a battu des records et tout. C'est un boxeur
Puis,
exceptionnel.
faut voir la façon dont il les bat aussi. Tu vois, par exemple, tu prends
Voilà.
Emmanuel Rodriguez, ça sera peut-être jamais une légende, mais c'est un superbe champion poids coq. Inoue, il l'a éteint en 2 rounds, quoi.
Et du coup, voilà, il va prendre donc les meilleurs de sa caté, parce que clairement, c'est les meilleurs de sa caté, c'est les champions de sa caté. Il va chercher les champions. Et puis surtout, rappelez-vous, Canelo en 2021, ben, on ne s'attendait pas à ce que les trois adversaires qu'il prend dans l'année, ils le battent. Ce n'était pas une surprise de voir Canelo gagner. Par contre, il est récompensé parce que Canelo, il va faire le ménage dans sa catégorie. Donc pour moi, c'est un argument de taille. Inoue qui vient chercher toutes les ceintures, c'est un argument de taille. Il a fait quelque chose. On a récompensé Canelo. Pourquoi on a récompensé Canelo? C'est le plus riche, c'est la star, c'est le visage de la boxe. Mais alors, il faut que ça tienne aussi pour Inoue. Inoue, aujourd'hui, on l'a dit, c'est devenu une star. Et puis, j'ai aussi un petit truc dans le cœur, c'est que je me dis, s'il l'a pas cette année, il l'aura peut-être jamais. Tu vois, c'est
Ah,
par
mais
rapport au
ça,
parcours. Tu vois?
c'est.
Et
Ouais, mais
je me
ça,
dis,
c'est
c'est quand même
l'éternel
l'année
débat
où
dans
il
la
le
boxe.
mérite. Voilà.
Ouais, c'est
Et
sûr,
puis,
mais il
Bivol,
aurait
l'année
pu.
prochaine, Bivol, l'année prochaine, il va battre Beterbiev et il sera boxeur de l'année. Comme ça, cette année, c'est Inoue, l'année prochaine, c'est Bivol.
je sais pas s'il battra Beterbiev, hélas. Non, mais
Ah,
Bivol aurait pu l'être même en 2019. Tu sais que moi, avec le recul, à l'époque, ça m'avait
ouais.
pas, Bivol Inoue, ça m'avait pas du tout frappé. Comme quoi, c'est ça que tu vois aussi quand tu parles de boxeur de l'année, quand des fois, tu es dans le contexte du truc, c'est, tu te dis, putain, Inoue en 2019, est-ce que quelque part, tu donnais pas le titre de boxeur de l'année plus qu'à Canelo, tu vois, quelque part? Mais sur le coup, ça me venait pas l'idée. C'est aujourd'hui avec le recul que j'y pense, tu vois. Donc ouais, c'est vrai que c'est toujours difficile. Après, tu peux pas vraiment mettre ton truc en disant, ouais, si je le nomme pas boxeur d'année cette année, il le sera peut-être jamais, parce que,
Oui,
ouais,
c'est pour
ça
ça que
brise
j'ai
le
dit,
cœur. Voilà.
c'est pour ça que j'ai dit, c'est le petit truc que j'ai dans mon cœur. Je ne l'ai pas donné dans mes arguments. Attention, hein. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit.
Ah oui, non, mais
Et
c'est sûr.
il y a juste Malik, il rebondit encore. Donc Malik, il est chaud. Il parle de Haney quand on a dit Haney, il va chercher les ceintures en Australie. Il a défendu là-bas aussi Inoue et resté dans son fief. Alors Malik, du coup, c'était un peu un contre-argument parce que comme Bossos, en termes d'adversité. D'accord,
Ouais.
hein, c'est à remettre à sa place. Et par contre, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il y a une grande différence entre le champion qui est Haney et le champion qui est Inoue, avec cette volonté d'aller abréger le combat. Pour moi, c'est
Ouais.
une classe hors
Le
norme,
panache,
hors norme de
ouais, le
faire ça.
panache en
Voilà, c'est le
plus.
panache.
Franchement, c'est chez les poids coqs, je pense que c'est du jamais vu de voir un boxeur comme ça avec enfin il a un énorme ratio de KO, mais même c'est un boxeur qui est complet. Et je pense que avant son premier combat contre Donner, on pouvait douter, se dire oui, mais quand il sera mis en difficulté, est-ce que il pourra enfin répondre présent, etc. Et franchement, moi, je pense que déjà le premier combat face à Denner, ça a enlevé ses doutes. Il avait un menton, voilà,
Oui.
parce qu'il faut l'encaisser, hein, le crochet de
Ouais.
Denner. Et en plus, revenir alors qu'on a l'œil
L'os
fracturé,
orbital
le nez
même
cassé,
fracturé, ouais.
etc. Il a fait ce fight en ayant un œil fracturé, enfin l'os orbital
L'os
fracturé,
orbital,
le
ouais.
nez cassé. Et voilà, ça montre l'énorme mental qu'il a aussi.
Attends,
Ouais.
Abdel, tu as dit quelque
Franchement,
chose
il est complet pour
d'intéressant.
moi.
Voilà, boxeur complet. Alors justement, je vous pose la question. Pour moi, là, clairement, il faut qu'on choisisse entre Bivol et Inoue. Hein. On est d'accord. On est d'accord sur ça ou pas?
Oui, c'est ça, oui.
D'accord. Alors, est-ce que Inoue est un boxeur plus complet que Bivol?
Je te dirais que oui,
Oh.
moi. Je te dirais que oui, ouais.
Ah ben voilà, donc Vincent, tu es d'accord avec nous. C'est lui le boxeur de l'année.
Ah, et c'est plus complexe que ça.
Ah, attends,
J'étais.
Vincent, si tu oublies que Bivol est russe,
Non, non, mais c'est pas la question.
est-ce que tu mettrais Inoue premier? Ah, votez dans les commentaires, les gars. Allez, je vais
Mais
voir Bivol ou
j'y
Inoue.
sais. Si Inoue
Ouais.
n'est pas japonais, s'il est anglais, est-ce que tu votes pour lui?
Ça me ferait mal au cœur, mais je crois qu'il prendrait la place de Chris Eubank Jr. dans mon cœur. Et oui, je devrais reconnaître que c'est le meilleur. Non, mais ouais, moi, non, moi, c'est pour moi le fait qu'il soit japonais, c'est un plus parce que ça fait toujours plaisir de me dire premier japonais à avoir les quatre ceintures, premier japonais à être le numéro un du top, tu vois. Mais après, objectivement, pour moi, cette année, je le trouve extraordinaire. Et pourtant, je suis un gros fan de Bivol, vous le savez, hein. Moi, Bivol, je le soutiens depuis peut-être plus longtemps, hein. Je parle de, oh, je sais pas, ça se discute, mais Bivol, pour moi, c'est dur de départager entre les deux parce que je les aime énormément. Mais pour moi, ce qui fait la différence, honnêtement, c'est après son combat là de Inoue, c'est cette volonté à chercher le chaos et c'est là où il m'a convaincu. Tu vois, j'aime beaucoup Bivol, mais là où j'ai, pour moi, cet argument, c'est le plus fort. Cette volonté de vouloir abréger le combat, quitte à prendre un peu plus de risques, alors t'as pas besoin d'en prendre. Tu vois, alors que Bivol, il va avoir cette, il va gérer, il va tenter de toucher, mettre le chaos, hein, mais toujours dans le moment où il est sûr d'avoir l'avantage. Tu vois. Et on l'a bien vu contre Ramirez. Parce qu'il va créer les espaces. Et quand il peut, il va changer de rythme. Bah, envoyer des coups puissants. Mais il va pas se mettre en danger. Inoue, à un moment donné, dans le combat, là, contre Butler, si ça partait à la mexicaine, il l'aurait fait, tu vois. Ça ne te dérangeait plus. Et
Ah
ça,
oui.
j'aime.
Ah, bien
Alors,
sûr.
attendez, donc, Bivol, ça dit. Ça vote pas trop, hein. Inoue aussi. Votez, les gars, il faut que vous votiez. Parce que nous, on va voter. Mais comme on est trois. Et que je sais qu'on va battre Vincent, je veux pas qu'il soit trop triste quand il va quitter ce Sauf si
Oh, tu
Abdel me
sais,
lâche.
hey, je vais te dire, JC, Inoue, boxeur de l'année, j'ai connu plus triste comme nouvelle, parce que c'est un boxeur
Ouais.
que j'adore aussi, Inoue.
Et t'imagines, ils mettent Tyson Fury, boxeur de l'année.
Ah, je pense pas quand même. Non, moi je pense que ça va quand même se jouer entre les trois noms que tu as mis dans la miniature, en fait. Pour
Ouais,
ce
c'est
qui est de
ça.
la nomination de Ring Magazine, qui est ben, la nomination originale, et je vous rappelle que c'est eux qui l'ont créée en 1922, cette nomination. Donc c'est vrai que c'est un peu eux qui font foi, on va dire, souvent.
Ouais, Inoue, il prend l'avantage dans les peu de commentaires des gens qui osent se mouiller. Peut-être qu'il y en a qui ont peur que je les bloque. Malik, de toute façon, Malik, je vais bientôt le bloquer parce que là, je vois qu'il insiste
Et
avec Bivol.
Vincent, tu penses que Ring Magazine, ça va jouer entre qui t'as dit? C'est qui les trois?
Les trois que JC a mis dans la miniature, c'est-à-dire Usyk, Bivol et Inoue. Et tu
Si
penses que...
Usyk est élu, vous trouvez que c'est un vol ou pas? Vous trouvez que c'est honteux ou pas?
Moi, je trouve honteux, je sais pas, mais pour moi, c'était pas le plus légitime. Après, moi, j'ai un scénario en tête depuis un petit moment. C'est que, comme je te dis, est-ce que symboliquement, ils vont pas nommer Usyk et Bivol?
Ah, ce serait beau, hein.
Moi, je sais pas,
Je l'avais abordé, enfin, je sais pas si tu te rappelles,
hein.
dans une
Ouais.
vidéo, j'avais
Oui,
dit
on en avait
que
parlé,
c'était
ouais.
beau, j'aurais aimé, enfin, je l'ai dit, c'était beau par rapport à la boxe, qu'en fait, on aurait plus de classe que les autres sports qui ont viré les Russes, de
Ouais.
mettre boxeur de l'année un Russe et un Ukrainien, ça serait un beau message de paix. Après, c'est politique, on va pas se
Oui,
mentir,
mais ouais.
mais voilà, dans ce sens-là, ça me va, quoi, franchement.
Mais est-ce que Ring Magazine est pas un peu enfin politisé, je sais pas, hein, mais est-ce que parce que Bivol est
Oh oui,
russe,
bah c'est les Américains, frère, c'est les
voilà,
Américains. Bien sûr que c'est politisé.
justement, donc est-ce que parce que Bivol est russe, il sera pas élu boxeur de l'année, par exemple?
Ouais, non, mais c'est possible, hein. C'est possible, mais je pense que quand il y a une pression qui se fait sur Bivol, moi je vois un peu les discussions qui se font sur des forums américains et tout, je sens qu'il y a une pression qui se fait quand même pour Bivol, quoi.
Ok.
Bon, il y a pas mal de Bivol dans les commentaires, il a pris l'avantage, ça me fait plaisir. Je vois que ma communauté me respecte, même s'ils y croient pas, au moins, pour l'affection qu'ils ont pour moi, ils votent Inoue, ça fait plaisir. Et donc, bon, bah, on va voter, les gars, on vote.
Ok.
Alors, Usyk boxeur de l'année. Oui ou non?
Non.
Ah, pour moi, non.
Non, non, pour moi aussi. Bivol, boxeur de l'année.
Oui.
Ça me choquerait pas.
Il faut dire oui ou non?
Il faut dire oui ou non. Bah, pour moi, non.
Okay. Mais ça pourrait. Non. Ben, à contre-cœur, je vais dire non, parce que voilà, vraiment, pour moi, j'ai été marqué par Inoue. Donc, Inoue, boxeur de l'année.
Pareil. Inoue,
ouais.
Bah, moi non, du coup, non.
Okay. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça a été un chouette débat. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que voilà, je rejoins Abdel, même si je l'ai coupé en rigolant, que si Bivol est boxeur de l'année, je serais vraiment heureux. Non, franchement, je serais vraiment heureux, ouais. Parce que ça sera la classe et puis il aura mérité ce qu'il fait cette année. Et puis bon, je veux dire, il a déjà remporté son année, tu vois. Je veux dire,
oui.
Médiatiquement, aux yeux du public et tout. Donc c'est vrai qu'aussi, il y a ce petit truc de se dire, quitte à faire aussi un geste sportif et mettre en avant un boxeur qui pourrait le mériter. Voilà. Mais ça, c'est les petits trucs du cœur. Tu vois, c'est comme j'ai dit pour Inoue, peut-être qu'il ne le sera jamais. Je me dis, ça pourrait être beau de mettre Inoue boxeur de l'année. Mais dans les deux cas, franchement, je serais content.
Ouais, non, mais bien sûr. C'est totalement légitime, de toute façon, hein, pour les deux.
Les amis, en tout cas, c'était vraiment. Moi, je me suis régalé. C'était un super live. Je vous laisse à tous les deux le mot de la fin, et puis je dirai au revoir à tout le monde. Vincent, je t'en prie, dis le mot de la fin, ton mot de la fin.
Ben écoute, je dirais que ça n'a pas été forcément la plus grande année de boxe qu'on ait connue, mais bon, écoute, on a eu quand même de sacrés bons moments. La preuve en est, on a réussi à débattre ne serait-ce que du titre de boxeur de l'année pendant plus d'une heure et demie. Donc ouais, j'espère que 2023 maintenant va tenir ses promesses, parce qu'il y a beaucoup de grosses oppositions qu'on attend, et on sait que c'est ce qui tue un peu ce sport. Le manque d'activité, le manque d'opposition. Donc, écoute, on peut qu'espérer que ça aille de l'avant.
Et franchement, ce qui est regrettable, excuse-moi, après, Abdel, je te laisse la parole, mais ce qui est regrettable, c'est que en cette fin d'année, dans notre débat, on aurait dû avoir Crawford et Spence qui mériteraient d'être parlé là, et on ne les cite même pas, parce qu'ils ne font pas une année ouf du tout. Et ça, c'est un des gros regrets de cette fin d'année. Mince, ouais, Abdel a quitté au moment où j'allais lui donner la parole. Quand je l'ai vexé, quand j'ai parlé de Crawford contre Errol Spence, il a dit, alors j'en ai marre, la boxe, c'est de la merde, il s'est barré. Mais c'est vrai que c'est quand même un de nos gros regrets, parce que voilà, en cette fin d'année, on a tellement dit que voilà, c'est le combat, ça serait fait, enfin c'est sûr, c'est l'année où ça va se faire. Et puis c'est les deux gros noms qu'on veut voir. Ça me fait vraiment penser à Manny Pacquiao contre Floyd Mayweather,
ah ouais,
quand on regarde bien.
Ah ouais. Ah moi, ouais, tu vois, non, je trouve pas qu'il se... Ouais, d'accord, ouais. Non, mais parce qu'après, moi, pour moi, Pacquiao Mayweather, là où c'était transcendant, c'est que c'était vraiment le Philippin contre l'Américain. Et puis, c'était des stars d'un autre niveau, quoi, qui transcendaient vraiment le sport. C'est un peu le problème avec Spence et Crawford, et je pense que c'est pour ça aussi la difficulté. C'est qu'en fait, c'est un peu un combat bâtard dans le sens où tu te dis, ouais, ça va rapporter, mais ça va pas non plus transcender les frontières, ouais, de la boxe. Hein. Et ils sont plus que entre deux chaises. Hein.
Là, Vincent, c'est pour l'histoire aussi, ce combat.
Ah non, mais nous, on est d'accord que...
À un moment donné, voilà.
C'est pour l'histoire. Honnêtement, je t'avoue que je n'y crois plus, et je t'avoue que j'ai même plus la hype, tellement ils m'ont gonflé, en fait.
Ah ouais, à ce point-là. Ah non, Vincent, on était bien partis là, pour finir le live. Tu me plombes le moral, là. C'est pas
mais il y a d'autres oppositions. Il y a d'autres oppositions, les gars.
Bon, écoutez, malheureusement, Abdel ne revient pas. On aura l'occasion sûrement de refaire des lives ensemble, et notamment avec Abdel. Je tenais à ce que Abdel soit présent aussi, parce qu'on le met pas assez en avant, Abdel, mais c'est un boxeur professionnel. Il a fait son grand retour sur le ring. Ah ben là, désolé les gars, j'ai été déconnecté. Il a mis un message dans le chat. Donc bon, ouais. Voilà, je me permets de faire sa petite promotion. Abdel, c'est un boxeur professionnel. Après des longues années de galère, il a pu faire son retour. J'ai fait un reportage sur lui. Abdel, c'est aussi un ami. Donc allez voir ce reportage qui s'appelle Cœur de boxeur. Sur Abdel Benaïcha, Et puis, il a des grands rêves, il veut aller boxer à l'étranger, notamment au Japon. Donc, c'est pour ça que je tenais à ce qu'il fasse partie de cet échange
Ah,
autour
mais
voilà,
c'est pour ça, en fait, à Abdel, on lui a promis une licence au Japon s'il nomme Inoue
de...
boxeur de l'année, c'est ça?
C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Mais en tout cas, voilà, on a plein de rêves ensemble, d'ambitions, et pourquoi pas de le suivre avec Box Attitude, avec vous, la communauté, de le suivre à travers le monde. Et j'espère que ça se fera. Merci à tous d'avoir été présents. Je ne sais pas combien de personnes il y avait. Il y a 40 personnes là en ce moment, c'est cool. Et on se rapproche des 4000 abonnés sur la chaîne secondaire. C'est quand même fou pour une chaîne de podcast. Je vous dis merci à tous. Je vous dis à la prochaine. Fighting!
Salut à tous!